Et je vais voir le posturologue justement et qui me dit bah, c'est normal que tu aies mal au genou, parce que tu as un défaut de convergence à l'œil gauche. Alors moi je lui dis mais ça n'a aucun sens.
Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les réflexes archaïques. Est-ce quelque chose de réel? Est-ce que c'est scientifiquement prouvé? Quelle est sa place dans le monde du sport? Et comment savoir si on est concerné? Bienvenue dans ce podcast. Je suis Vlad de Vlad Méthode et je vous propose d'écouter de suite notre invité.
Moi, je m'appelle Lucas Bourguignon. Je suis, j'aime pas trop ce terme, mais on va dire que je suis une base, j'ai eu une base de coach sportif. J'aime bien utiliser le terme d'écologiste de la vie humaine maintenant parce que, justement, on va le voir dans le podcast. Avant le sport, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à travailler, à accompagner avec les humains. Donc, j'ai un cursus STAPS classique au départ, sauf que j'étais éducation-motricité. Je n'étais pas entraînement, mais éducation-motricité. Donc, c'était pour être prof de sport. Et puis, au fur et à mesure, je me suis orienté un petit peu vers d'autres choses. Je faisais du tennis de table à haut niveau. Et je voulais être coach sportif, mais je faisais 60 kilos pour 1m80, donc je me suis dit que c'était pas très crédible. Donc j'ai commencé à me mettre un peu au sport, et notamment au CrossFit. À Gerland, c'est là qu'on a commencé à créer la connexion et les gens qu'on connaissait. Ensuite, donc, je passais mon level 1, je suis allé quelques temps à Narbonne. J'ai coaché très très peu dans une salle de CrossFit où je gérais la partie natation. Voilà, et puis j'ai eu le confinement où j'ai commencé à me tourner un petit peu vers des podcasts. Moi qui n'aime pas trop ça, notamment sur les podcasts de Anthony Baptiste, Mathieu Boulay, Thibaudot, tous ces mecs comme ça. Et je me suis dit, il y a quand même autre chose à aller creuser. Et pendant ce temps-là, je pratiquais le CrossFit. Je m'entraînais une, deux fois par jour, donc j'étais quand même assez assidu. Et après une compète où il n'y a pas eu trop de raison, j'ai eu très très mal au genou. Et du coup, j'ai tout essayé. Donc la réhab, j'étais quand même très sensibilisé à ça. J'avais fait des procs, j'avais fait tout ça. J'ai tout essayé en réhab. J'étais suivi par quelqu'un en force athlétique aussi. On a essayé plein de choses, mais j'avais toujours mal au genou. Et un jour, sur une autre formation, je rencontre un mec qui me parle de posturologie et qui me dit, bah tiens, lundi, je t'ai eu un rendez-vous pour aller voir tel mec. Et je vais voir le posturologue justement et qui me dit, bah c'est normal que tu aies mal au genou parce que tu as un défaut de convergence à l'œil gauche. Alors moi, je lui dis, mais ça n'a aucun sens ce que tu es en train de me dire. Et là, il commence à me parler de pivot rotatoire, de prise d'information visuelle, qui fait que vu qu'un œil ne travaille pas, bah, il faut que ma tête accompagne, donc ça fait bouger mes épaules, que vu que mon bassin, lui, veut rester droit, ça fait un pivot rotatoire au niveau du genou. Et donc, en fait, je prends un peu une claque parce que je me rends compte que ce qu'il dit, ça a une certaine logique et que je ne la comprends pas. Du coup, à partir de ce moment-là, je décide d'aller me former au CIES, donc c'est une formation de posturo. Je fais mon cursus, C'est Vincent Estignard qui me forme, donc en plus qui est très calé. Je vais en stage chez Vincent entre les deux modules. Je fais le deuxième module. Et au deuxième module, on commence à nous parler réflexes archaïques, douleurs émotionnelles, blessures de l'âme, etc. Donc encore des trucs où je vois une certaine logique, mais je ne comprends pas tout. De là, je commence à aller me former sur des trucs qui j'aurais pensé il y a 2 ans rien à voir, mais qui au final vont faire du lien, on va le voir tout à l'heure. Sur de l'hypnose, par exemple. Donc je me suis formé en hypnose. Pour être praticien d'hypnose, que je n'ai jamais fait mais qui m'a beaucoup aidé dans ma pratique. J'ai commencé à lire pas mal de livres, notamment sur les blessures émotionnelles de Bourbeau, ce genre de choses. Et je me suis dit quand même au réflexe archaïque, on en a parlé au CES, mais j'ai l'impression quand même qu'il manque des choses. Donc j'ai commencé à aller me former chez Paul Landon sur les réflexes, sur les patrons moteurs à l'Institut IP. Donc j'ai fait quand même ce chemin. C'est vraiment fait de point par point parce qu'à chaque fois je trouvais des liens assez forts entre les choses. Et je continue maintenant sur d'autres formations de faire des liens qui sont assez forts. Tout ça pour dire que maintenant je me rends compte que le sport c'est très bien et ça a été 15 ans de ma vie où j'ai vraiment tout misé sur le sport. Il y a 3 ans, si on m'avait entendu parler, je te disais qu'avec le sport on pouvait régler l'obésité, on pouvait régler les blessures de genoux, on pouvait tout régler. Et en fait je me rends compte que le sport c'est peut-être le sommet de la pyramide. Et on va en parler notamment la muscu. Qui, en plus d'être un sport, la muscu, c'est vraiment quelque chose où on enlève le côté naturel de évoluer dans son environnement, puisqu'on crée un environnement fixe, etc. Et donc, c'est vraiment le sommet de la pyramide. Et en fait, plus j'avance dans la formation, plus je me rends compte que les bases de la pyramide, on les connaît de moins en moins. Et c'est un petit peu là où j'en suis revenu, c'est retourner à l'humain et à son développement moteur. Alors, il y a toujours la question de est-ce que l'humain de maintenant est le même humain qu'il y a 5000 ans? Moi, j'ai tendance à penser que sur énormément de choses, oui. et qu'il faut adapter à notre vie qu'on vit actuellement. Donc ça va être un petit peu ça, le thème du podcast, c'est comment on peut comprendre comment l'humain s'est développé depuis que c'est un humain et le mettre en pratique sur des choses qui sont maintenant importantes pour l'humain. Parce qu'on le verra pour plein de choses, faire de la musculation, ça peut apporter énormément de choses à l'humain de 2022. Donc ça va être un petit peu ça qu'on va essayer de mettre en lien par les réflexes archaïques, par les patrons moteurs, par la neurologie fonctionnelle, ce genre de choses.
Alors, si je résume bien, tu as fait du coup une formation de posturologue, ça, au
Yes.
début. Donc, tu as le titre du coup de posturologue.
Qui ne sert absolument à rien, il faut le savoir, c'est comme beaucoup de trucs en France, c'est pas du tout protégé d'État, donc n'importe qui peut se dire posturologue.
Ok. Et du coup, tu as découvert les réflexes archaïques là-bas. Donc, posturologue, je pense que la plupart des gens voient un peu ce que c'est. Mais j'aimerais quand même que tu expliques un peu ce que c'est, parce qu'ils vont tous se dire c'est la posture. Est-ce que c'est quand tu es assis? Est-ce quand tu es debout, les épaules vers l'avant, les épaules vers l'arrière? Je pense que la plupart des gens vont penser ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est la posturologie?
Alors, la posturologie, c'est effectivement, c'est encore une fois, ça va être beaucoup de mon ressenti ce que je vais dire. Hein. Il y a peut-être une définition qui est meilleure, mais moi, celle que je vois, c'est vraiment l'étude de la posture globale de l'être humain pour que la posture, donc se tenir debout ou se tenir dans n'importe quelle position, soit le plus efficient possible. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens à qui on va dire tiens-toi droit. Mais en fait, s'il ne se tient pas droit, c'est que c'est mieux pour lui. Donc, ça, c'est aussi un truc qui est important pour moi et je le répète vraiment tout le temps, c'est un individu fait toujours ce qu'il y a de mieux pour lui au moment présent. Donc si la personne, elle se tient voûtée d'un côté complètement courbée, bah, c'est que c'est plus efficient pour elle à ce moment-là. Par contre, est-ce que c'est plus efficient sur le long terme? Bah, pas forcément. Et c'est là où la posturologie va intervenir, c'est comment on peut faire en sorte que la position la plus efficiente pour l'individu soit sa position la plus efficiente dans le long terme. Donc pour revenir à la question de façon très simple, la posturologie, c'est l'étude de tous les capteurs d'information, les yeux, les pieds, la mâchoire, la peau, les réflexes archaïques, toutes ces choses-là qui vont impacter comment l'individu se tient et qui vont créer ou non des compensations.
Ok, et là une question qui me vient comme ça d'un coup. Je suppose que la plupart des gens n'ont pas besoin des mêmes corrections de posture et que la posture qui va à une personne pour le long terme, comme tu disais, n'est pas forcément la même pour tous.
Sur ça, il y a deux vrais postulats. Il y en a qui vont dire qu'il faudrait que tout soit aligné. Moi, j'aime pas trop cette idée-là. Je pense qu'il y a, on peut le voir dans certains sports où tu as des mecs qui ont tout ce qu'il faudrait pas dans la posturologie de base clinique et qui sont capables de performer. Donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est comme en sport, la technique doit s'adapter à l'athlète. Pour moi, la posture doit s'adapter à l'athlète. Après, il faut être capable de prendre en compte quelle compensation il y a. Combien de temps la personne va être capable de compenser? Je prends l'exemple de mon genou à moi. Ben moi, j'ai été capable de compenser jusqu'à 25 ans et une compète. Et on ne sait pas pourquoi, à ce moment-là, ben, j'avais plus assez de ressources pour compenser. Donc en fait, on se retrouve toujours avec l'équation qui, celle-là, pour moi, elle est dure à remettre en cause. Toutes les blessures sont dues à une contrainte supérieure aux capacités de l'individu. Donc, ça peut être. Alors, il y en a, ils vont dire oui, mais si tu te fais rouler dessus par une voiture, ben, en fait, tu t'es blessé parce que ton corps, il n'a pas la capacité d'encaisser la charge. Mais à l'inverse, si tu as fait 100 wall ball et que tu as mal au genou, bah en fait, ton corps n'a pas la capacité face aux contraintes que ça générait. Donc, une autre définition qui pourrait être intéressante de la posturologie, c'est augmenter les capacités de l'individu ou réduire ses contraintes pour qu'il vive de la meilleure façon, la plus belle harmonie possible.
Moi, donc, du coup, quand tu me dis augmenter les capacités de l'individu, je vais penser, de par mon profil directement, soit au crossfit, soit à la musculation, en me disant, bah, ok, s'il ne peut pas encaisser 100 wall ball, bah, je vais peut-être créer petit à petit un volume et augmenter petit à petit jusqu'au jour où il peut faire 100 wall ball et le lendemain, il peut descendre l'escalier sans avoir mal au genou, par exemple.
Et je suis pareil, ça m'a pris un peu de temps, mais je pense que tu as entièrement raison. Et c'est important de se dire qu'il n'y a pas une optique très bonne, c'est que la surcharge progressive est une façon d'augmenter la capacité de l'individu. Mais à l'inverse, et je reprends encore l'exemple parce qu'il est parlant, imagine le wall ball, tu dois suivre une cible, visuellement aussi. Faire des wall balls à l'aveugle, ça peut se faire, mais c'est plus dur. Donc, si à chaque fois que tes yeux doivent converger vers le ballon, ça ne se fait pas très bien. Et du coup, t'es pas efficace. Ça va te demander beaucoup d'énergie. Donc 10 fois c'est possible, au bout de 20 fois c'est dur, 50 fois ça devient un peu n'importe quoi, et en fait au bout de 100 fois tu vas compenser. Comment mesurer comment cette compensation t'impacte? Bah, c'est compliqué. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu peux augmenter les capacités de l'individu musculaire. Donc là, on va parler des wall balls. Tu peux aussi augmenter les capacités techniques. Tu vois, par exemple, quel mouvement de bras tu fais. Mais tu peux aussi augmenter les capacités de prise d'information au niveau oculaire. Si ça se trouve, les pieds, il y a un des deux pieds qui n'a pas la même sensibilité que l'autre. Du coup, à chaque fois que tu attrapes le ballon et que tu viens mettre de la tension sur toutes tes jambes et du coup tes pieds, la restitution d'énergie va pas être la même. Donc en fait, c'est là où les capteurs sensoriels vont être importants.
Et du coup, j'ai une question pour être sûr que tout le monde comprenne. Qu'est-ce que tu appelles compensation? Par exemple, tu disais, j'ai compensé pendant 25 ans mon genou. Mais tu as compensé quoi, comment?
Bah, pour l'exemple que tu donnes, bah en fait, visiblement, et encore ça, c'est selon le posturologue que j'ai vu, hein, y a toujours 10 000 hypothèses. Vu que moi, j'avais l'œil gauche qui fonctionnait moins bien, quand je devais suivre une cible, au lieu que ça soit mes deux yeux qui aillent, ça allait être un peu plus ma tête qui allait y aller. Ça, les gens peuvent faire le test chez eux. Quand la tête bouge, très souvent, toute la journée, on a aussi les épaules qui vont bouger. Mais ça, quand on le fait statique, c'est possible. Par contre, quand on va marcher, et qu'on veut marcher tout droit, mais qu'il se passe des choses sur les côtés qu'on doit regarder. Bah, si on veut continuer de marcher droit, le bassin, il va devoir compenser ce changement de rotation, cette rotation qui est au niveau des épaules. Donc là, il y a ce qu'on appelle le pivot rotatoire au niveau du bassin. Et ça, pareil, les gens peuvent essayer de faire pivoter votre bassin avec les épaules dans l'autre sens, vous allez voir qu'il va apparaître des tensions dans le corps. Est-ce que ces tensions sont graves? Pas vraiment. Par contre, si vous les vivez, on va dire pas 24 heures sur 24, mais 10 heures par jour pendant 3 mois. Il suffit qu'un jour vous soyez fatigué, que vous ayez beaucoup forcé par exemple sur des wall balls, bah peut-être que vous n'êtes plus en mesure de compenser ça. Et en fait, le corps va envoyer un signal, je ne peux plus compenser. La douleur, c'est une information, hein. De toute façon, il y a des douleurs qui sont graves, il y a des douleurs qui ne sont pas graves d'un point de vue de l'espèce. Et bah, je ne peux plus compenser, donc j'envoie une information de douleur. Après, ça peut être ces compensations. Ça, on en voit beaucoup. Par exemple, je parle notamment sur, par exemple, le réflexe de Babinski du pied qu'on voit beaucoup. Tu sais, c'est quand tu viens caresser la ligne du pied et les gens ont vraiment une sensation de retrait. Bah, si, par exemple, le Babinski il est plus actif d'un côté que de l'autre, alors évidemment, la stimulation du stylo, elle est particulière. Mais il faut imaginer que si la personne, elle est vraiment plus sensible d'un pied que de l'autre, étant donné que le cerveau il est prédictif et qu'il sait que ça va être plus sensible, il va s'organiser autrement pour mettre moins d'impact sur le pied. Donc en fait, le pied qui est plus sensible, vu que le corps il a du mal avec cette information, vu qu'il est en retrait, il va faire en sorte quand il marche de peut-être moins appuyer dessus. Je prends un exemple très bateau, hein, je vulgarise, mais du coup on va se retrouver avec des personnes qui appuient fort d'un côté et pas fort de l'autre. Bah ça c'est facile de comprendre sur un squat que des fois on va voir quelqu'un qui shift. Parce que, en fait, il appuie fort d'un côté et pas de l'autre. Et donc là, on peut lui dire, fais de l'isométrique sur le pied. Fais n'importe quoi sur le pied. Fais sur le genou. Fais de l'unilatéral. Mais en fait, l'unilatéral, ça va redonner une autre information qui est encore plus forte que celle que le corps ne veut pas avoir. Imagine que tu es sur deux pieds et le corps, il ne veut pas appuyer sur ton pied gauche parce que tu as un réflexe ou X raison. Et toi, tu vas faire de l'unilatéral sur le côté où le pied ne veut pas travailler. Ouais, et du coup, c'est là où ça peut fonctionner parce que, encore une fois, surcharge progressive. Ça se trouve, à force, tu vas pouvoir désensibiliser le pied. On ne sait pas. Mais tu peux aussi créer une tension qui est tellement forte que c'est impossible pour le corps de s'adapter. Et là, on reprend surcharge progressive. Est-ce que ce que tu surcharges, le corps est capable de l'encaisser?
Ça peut par exemple entraîner. Alors on va reprendre le cas concret du coup. Mon client, quand il squatte, il part du coup sur un côté. Donc on voit visuellement de dos que par exemple ses fesses partent d'un côté ou même qu'il met plus de poids de corps sur la remontée sur le pied gauche. Du coup, moi, coach sportif, je vais me dire bah écoutez, je vais dire a priori sans réfléchir, je vais faire l'unilatéral, donc des mouvements à une jambe. Bam, je le mets en split squat bulgare, donc c'est une fente avec le pied derrière qui est surélevé et le pied qui est au sol. Du coup, c'est la jambe droite, la jambe où je l'ai jugé qu'il avait du mal à pousser avec, parce qu'il shiftait à gauche. Donc je vais dire, bah, tel qu'à gauche, il a à droite sa jambe est faible, pardon, à gauche forte, et du coup, bah, je vais renforcer à droite et après, hop, il va squatter droit. Et peut-être que ça a marché, et peut-être aussi que du coup, comme tu dis, que je vais mettre une charge trop importante. Sur le pied ou que justement je devrais pas mettre, et du coup ça pourrait En théorie, le blessé, par exemple.
Bah, après, encore une fois, ça va dépendre comment ça va être fait. Si c'est fait de façon hyper progressive, comme parfois on le voit chez les kinés, on commence, c'est même pas un split squat, c'est un demi-split squat sans intensité, pieds nus, ou bah en fait, peut-être que là, tu vas pouvoir donner une information au pied qui va dire c'est plus ou moins OK, progressif. Par contre, quand on le voit très souvent en force athlétique ou dans la muscu ou dans le crossfit, les mecs, ça fait 10 ans qu'ils shiftent au squat et ils n'ont pas forcément de douleur parce qu'ils sont capables de compenser. Et moi, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou pas de compenser, hein, parce que des fois, les compensations sont efficaces. Mais, et d'un coup, ils ont mal, ils vont se dire, ouais, je ne vais pas faire du split squat à 500 grammes. Ils vont faire des split squats lourds parce qu'ils se disent, putain, c'est quand c'est lourd que ça me fait mal. Mais est-ce que l'information est possible? Ben moi, je pose la question. Et là, on reparle de quelque chose qui, à mes yeux, est hyper important, c'est comment tu es connecté à ton centre. On en parlera notamment, c'est moi, si je devais parler que d'un réflexe, ça serait celui-là. Et c'est pourtant celui qui est le moins traité. Comment tu es connecté à ton centre vis-à-vis, tu sais, il y a plusieurs voies. Donc, il y a la voie céphalo-caudale, il y a la voie proximo-distale. Ça, c'est comment l'humain se développe. À la base, l'humain, il se développe quand il naît, quand il sort du ventre de la mère. Ses deux priorités pour survivre, c'est s'alimenter pour grandir et évacuer ceux qui s'est alimenté, parce que si on n'évacue pas, on meurt. Donc, les voies principales, c'est bouche, estomac, estomac, voie de sortie. Et ensuite, il va devoir explorer son monde. Donc, le ventre, le nombril, etc., jusqu'aux extrémités. La main droite, la main gauche, le pied droit, le pied gauche, pour explorer son monde. Aujourd'hui, alors je ne sais pas comment c'est chez toi, mais moi à Paris, je vois 90% des gens, je n'aime pas donner des statistiques, mais beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont plus connectés à leur nombril. C'est-à-dire que si tu leur demandes de toucher leur nombril, ils sont à côté. Quand il y a un test de la radiation de nombril où tu mets la main sur le nombril de la personne et tu lui mets la main sur l'épaule, tu n'appuies pas, tu mets juste la main, les gens sont déséquilibrés. Les gens ne sont plus connectés à leur centre. On va en parler souvent en CrossFit, c'est du corps, du noyau. Pour solidifier ton corps, on va te donner deux haltères de 25 kilos, on va dire faire du farmer carry. Et c'est très bien. C'est un super exo. Par contre, si, imagine si tu es déconnecté de ton noyau, quand on te met la main sur l'épaule sans appuyer, là on te rajoute 25 kilos. Est-ce que l'information, tu vas être capable de la digérer ou est-ce que tu vas la subir? Moi, j'ai plutôt tendance à penser que tu vas la subir. Et ça, c'est important à mes yeux de dire vraiment la connexion entre le centre et les extrémités plutôt que penser qu'au centre.
Au CrossFit même, il parle de mémoire, de bouger d'abord du centre et après d'aller sur l'extrémité, un peu comme tu disais. Que tant que tu n'as pas un noyau fort, tu pourras pas encaisser une barre en épaulé sur tes épaules, tu pourras pas squatter, tu pourras pas faire de keeping pull-up, tu pourras pas faire de wall ball, que tout part du centre. C'est vrai que ça part un peu de là. Là, tu parlais de réflexe tout à l'heure, donc du coup, ma question est la suivante. Je suppose que tu parles du coup de réflexe archaïque. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le réflexe archaïque? Enfin, ce que sont les réflexes archaïques?
En gros, et encore une fois, ça sera de mon ressenti à moi, les réflexes archaïques, c'est ce qui va permettre tous les gestes moteurs qui existent aujourd'hui, mais qui existaient il y a 100 000 ans chez l'humain, qui existaient il y a encore plus longtemps, et qui vont permettre à l'enfant, au nourrisson, de passer chaque étape de la vie. Je prenais l'exemple tout à l'heure de le réflexe de quand tu sors, tu manges, enfin, c'est important pour ta survie de manger. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'être humain, il s'en fout d'avoir des gros pecs, il s'en fout d'avoir des abdos. Tout ce qu'il veut, on parle de motivation intrinsèque, mais la seule motivation intrinsèque, c'est ça, c'est survivre un jour de plus et se reproduire, etc. Donc, quand tu veux survivre et que tu es un enfant, tu vas devoir mettre en place des choses. Parce que l'être humain, on est autonome à partir de 18 ans, c'est hyper long. Il y a des animaux, au bout de 2 mois, les animaux peuvent se barrer, il y en a, c'est même 2 jours, et être autonome. Un enfant de 2 mois, tu le laisses tout seul, il meurt. Donc, pour survivre, il a dû mettre en place des réflexes archaïques. Il y a des réflexes comme le réflexe de Moreau, qui est très connu pour l'émotionnel, c'est que l'enfant va s'ouvrir, il va se mettre à crier, il va se mettre à pleurer. À quoi ça sert? Il va attirer l'attention de la mère. Donc, c'est sa survie qui est importante. Le réflexe de nombril, par exemple, c'est pour connecter donc son nombril à ses extrémités, c'est pour attraper des choses. Donc ça, c'est important de se développer. Le réflexe de Babinski, par exemple, c'est un réflexe qui va permettre à l'enfant d'appuyer sur le ventre de sa mère pour aller chercher le sein pour téter, par exemple. Donc très important dans la survie. Sauf qu'aujourd'hui, on ne grandit plus naturellement. Donc certains réflexes n'ont pas eu le temps d'être engrammés. Parce qu'à force que le réflexe, par exemple, pour reprendre les réflexes de Babinski, à force de téter la mère, il y a au bout d'un moment, tu n'en auras plus besoin et le réflexe va s'intégrer, ça ne sera plus un problème. Parce que tu l'auras utilisé de la bonne façon. Et là, on revient à ton split squat. Et c'est là qu'on fait les liens. Si c'est fait de façon écologique pour l'individu par rapport à ses capacités du moment, il y a cette surcharge progressive. On peut aussi dire la même chose pour les réflexes archaïques. Le réflexe, il est là pour créer la survie et pour, entre guillemets, amener un autre réflexe qui va, entre guillemets, amener un autre réflexe et ainsi créer des patrons moteurs. Donc, par exemple, la marche, c'est la somme du rampé, du quatre pattes, du redressement de la tête. Plein de choses qui vont passer par des réflexes et des patrons moteurs. Et du coup, on se retrouve avec, si c'est fait de façon progressive, un individu qui arrive de façon saine et normale dans la société et dans son environnement. Par contre, si un réflexe n'a pas été utilisé, par exemple, on a laissé pleurer un enfant, c'est-à-dire que quand il pleurait, ça, il y a certains psychiatres, pédiatres qui le disent, faut laisser pleurer l'enfant. Sauf que dans le réflexe de Moreau, dans l'intégration, il y a une phase qui est prendre l'enfant dans ses bras, le rassurer. Donc, si cette phase elle est suffisamment bien faite, l'enfant il va intégrer son réflexe de Moreau, ça va aller. Par contre, si tu le laisses pleurer, est-ce que ça va pas du coup ne pas utiliser correctement le réflexe de Moreau et lui laisser des résidus dans la vie, potentiellement? Pour le réflexe de Babinski, si l'enfant il n'a pas suffisamment utilisé son pied, parce qu'on lui a mis des Air Max à 3 mois et demi. Et forcément, ça nous fait rigoler, mais ça arrive de plus en plus. Ou parce que, au lieu de ramper au sol, on n'a fait que le porter et on l'a mis dans un endroit où il ne pouvait pas bouger, etc. Bah, il va y avoir des résidus qu'on va devoir traîner toute sa vie. Donc, le réflexe archaïque, c'est vraiment, pour moi, c'est un réflexe de survie qui permet à l'individu de se développer correctement au point de vue de l'espèce pour évoluer dans son environnement futur.
Donc, si je comprends bien, de façon très simplifiée, c'est quelque chose qui est inné quand on est enfant. C'est-à-dire que l'enfant naît et il a déjà ces réflexes-là.
Il y a même certains réflexes qui sont dans le ventre de la maman. Et d'ailleurs, à la naissance, et ça, tous ceux qui ont des enfants qui écoutent le podcast, ils pourront en témoigner, les médecins, à la maternité, testent certains réflexes. Parce que s'ils ne voient pas certains réflexes, ils soupçonnent un trouble neurologique. Donc c'est vraiment un câblage de survie, en fait.
Ok. Et après, du coup, sur la théorie, si j'ai bien compris, imaginons que tout se passe bien, les parents font du bon boulot, l'ado aussi, enfin, tout va bien, il grandit, et après, entre guillemets, si j'ai bien compris, ou de ce que j'ai lu, ça va pas sûrement pas être le bon mot, mais on perd ces réflexes-là. C'est-à-dire qu'ils se développent, et après, ça devient comme la marche, où c'est. Je sais pas si on peut encore dire qu'un adulte, la marche, a un réflexe, mais dire qu'il a. J'ai pas le réflexe de. J'avais la liste des réflexes, d'un exemple de
Je vais te
réflexe.
donner un exemple,
Par exemple, le réflexe. Ouais,
ça va être super
vas-y.
parlant. Notamment, en fait, les réflexes sont quasiment toujours là, mais ils n'ont plus à s'exprimer parce que la survie n'est plus en jeu. Mais le réflexe de Moreau, on va notamment le tester en envoyant la tête de la personne en arrière et en la laissant retomber. Et l'expression d'un réflexe de Moreau actif, c'est que les bras vont s'ouvrir sur l'extérieur. Ça, par exemple, quand tu te couches dans ton lit et que tu te bascules en arrière, t'as pas les bras qui s'ouvrent. Par contre, quelqu'un qui tombe chez lui, par exemple, il tombe, il glisse sur du beurre, il tombe, qu'est-ce que vont faire les bras automatiquement? Ils vont s'ouvrir pour aller attraper quelque chose et se retenir. C'est vraiment l'image du singe qui est dans l'arbre, il tombe et il attrape une branche, tu vois. Donc ce réflexe, il sera toujours présent. Mais sauf qu'il doit être présent dans des situations qui le sollicitent. Alors que... Et un réflexe hyperactif, le réflexe de Moreau, c'est le plus parlant parce qu'en plus il touche l'émotionnel. C'est que à chaque fois que tu mets la tête de quelqu'un en arrière ou que la personne tombe, il y a le pattern moteur d'extension qui s'ouvre. Et ça va être hyper intéressant et on va en faire le lien avec la muscu ou avec la force athlétique. Il y a des gens notamment qui ont la tête vraiment en arrière quand ils vont faire un deadlift. Il y a des gens en haltéro, ils ont la tête qui va partir en arrière. Mais en fait, si ce réflexe n'est pas intégré, le mouvement de la tête en arrière peut déclencher une suractivation des muscles extenseurs. Puisque ce réflexe a pour but de protéger. Et faire un snatch à 100 kg, c'est très bien, mais survivre, ça sera toujours prioritaire. Donc, il faut se dire que peut-être, et là on reprend les capacités, peut-être que ces réflexes créent des compensations qui ne sont pas optimales. Et que ce soit Gertrude, 52 ans, Julie, 20 ans, n'importe qui fait de la compétition, qui fait de la santé, etc., plus tu compenses, plus tu dépenses d'énergie. Et au bout d'un moment, tu as un capital énergie par jour. Donc, si tu le dépenses à faire ça, le corps qui lui est le cerveau qui lui est prédictif va te dire stop, d'une façon ou d'une autre. Blessure, fatigue, manque de motivation, peu importe.
Ok, je vois. J'avais du coup, parce que j'avais vu sur internet des kinés qui parlaient du réflexe archaïque. Et du coup, c'était quelque chose qui allait complètement à l'encontre de la notion de réflexe archaïque. Donc, je vais te lire exactement. Je vais te lire le message que j'avais vu passer et j'aimerais du coup avoir ton avis là-dessus. Ça paraît, du coup, là, on va faire le rapprochement entre la science et les réflexes archaïques. Donc, quand je dis la science, c'est les recherches, etc. Et c'était les réflexes archaïques. La notion de réflexe archaïque n'est plus admise aujourd'hui et la thérapie d'intégration est considérée comme une pseudo-science et une dérive thérapeutique par les ordres médicaux et paramédicaux. Attention à ne pas présenter ça comme une vérité absolue. Là, j'avais vu passer ça, et du coup, quand on lit ce message, on se dit « Tiens, c'est pas prouvé par la science, ça fait peur, qu'est-ce que c'est, etc. etc. » Donc, du coup, je voudrais savoir un peu ton avis sur un peu le parallèle entre la science et les réflexes archaïques, sachant qu'il y a de nombreuses choses qui ne sont pas prouvées par la science qui sont utilisées. Rien à voir, mais les trigger points, savoir que tous les kinés utilisent ça, tout le monde pense que ça existe et que ça fonctionne, et pourtant, rien n'a encore jamais été prouvé. Donc, est-ce que ça rentre dans ces catégories-là, ou est-ce que vraiment il y a des études qui ont été faites dessus, ou est-ce que c'est plutôt, on va dire, pas une observation empirique sur le terrain? Donc, tu utilises des méthodes qu'on t'a apprises en posturo, ou de la théorie qu'on voit en réflexe archaïque, tu dis sur le terrain, tu vois que ça fonctionne. Ça, sur deux personnes, tu dis, ok, deux personnes, c'est un coup de chance, et sur 100 personnes, on est plus sur un schéma que sur un coup de chance.
Alors, déjà, moi, la réponse un peu provocante, parce que c'est ça. Il y a aussi plein d'études qui montrent que 80, je ne sais plus le chiffre, mais il était démentiel, et c'était pareil, une étude qui avait fait sur plusieurs pratiques de kiné, que l'acte de kiné ou un placebo ou le même acte mais témoin sur rien à voir avait le même effet. Donc, on peut vraiment avec des études tout dire. Après, effectivement, est-ce que la science a des impacts là-dessus? Oui, et déjà, je vais parler d'un truc, et ça, les adorateurs PubMed pourront y aller. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexes sur le lien entre l'apprentissage et le réflexe tonique asymétrique du cou. Donc, le réflexe tonique asymétrique du cou, c'est un réflexe où quand on va tourner la tête à droite, s'il n'est pas intégré, tout le corps va basculer sur la droite. Et ce qui va se passer du coup, c'est que les enfants, ils vont avoir du mal à croiser la latéralité. Et là, on retrouve notamment le schéma des dyslexiques, etc. On le retrouve très souvent. Et ça, il y a des études sur PubMed, il y en a plein. Donc, sur ça, ça sera compliqué pour moi de dire que c'est de la pseudo-science. Après, moi, la science qui me parle à moi, c'est comment ça fonctionne sur le terrain. Dans le sens où, bah, une étude, il faut qu'il y ait des gens qui la financent. Et c'est très bien. Mais par contre, on peut faire dire ce qu'on veut à la science. Et je ne suis pas en train de dire que la science, c'est pas bien, parce qu'il faut qu'on ait une base de référence, et c'est celle-là, et c'est très bien. Par contre, aujourd'hui, moi, j'observe avec une très grande majorité de mes clients des énormes changements dans leur vie. Alors moi, je suis plutôt sur le côté émotionnel, sur ces choses-là, entre le moment où on a travaillé un réflexe et le moment où on ne l'avait pas travaillé. Est-ce qu'il faut une autre preuve scientifique? Je ne sais pas. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Tu peux faire danser du banjo à quelqu'un, s'il ressort de la séance et qu'il va mieux, ça dépend quel est ton rôle. Mais moi, j'accompagne des humains pour aller mieux. Donc, je n'ai pas besoin de plus de preuves que ça. J'ai vu que ça fonctionnait. Après, il y a des études scientifiques, notamment sur le lien entre le cerveau et les réflexes archaïques. Le terme réflexe archaïque, alors, il est peut-être mis en cause, mais en fait, la notion derrière, elle est quand même toujours la même. C'est des réflexes de base. Et on peut l'observer avec des enfants. Et tous ceux qui ont des enfants, je vous invite à le faire. Allez sur Internet, regardez les réflexes. Regardez si votre enfant, par exemple, a de 0 à 3 mois, vous regardez les réflexes actifs à ce moment-là et vous lui faites faire. Et vous verrez qu'ils sont actifs chez tous les enfants hors troubles neuro. Donc quand on retrouve, tu sais, c'est ce que tu disais, quel est le panel? En tout cas, on retrouve des schémas moteurs qui sont les mêmes chez les enfants depuis des générations et des générations. Et même si notre société, elle évolue, les réflexes sont encore là. Donc moi, je trouve que ça a plus de valeur qu'une étude scientifique, même si l'étude scientifique apporte du crédit à quelque chose. Ça, on est bien d'accord. Par contre, et pour revenir, ça c'est vraiment mon truc, les réflexes archaïques ne sont pas un truc absolu, on parle avec des humains, et moi c'est ce qui me fascine chez l'humain, c'est que on ne saura jamais, et tu peux me prendre n'importe quelle science biomécanique, etc., le facteur humain fera que c'est toujours une possibilité qu'il y ait autre chose. Donc que tu bosses en FRC, que tu bosses en réflexes archaïques, que tu bosses en trucs sensoriels, que tu bosses en yoga, que tu bosses en pilates, en crossfit, si les choses fonctionnent, continue. S'il te manque quelque chose, cherche ailleurs. Moi, les réflexes archaïques ne sont pas 100% de mon activité. C'est un outil que j'utilise et que je mets à disposition de plein d'autres choses.
On a une en prépa physique, on dit souvent que même si une méthode n'est pas prouvée, donc une méthode de musculation ou de prépa physique, peu importe, si ça marche, si le mec est champion du monde et qu'il fait une méthode qui n'est pas prouvée par la science et même qui est désapprouvée par la science, dans ce cas, faut continuer et ça marche. Parce qu'en fin de compte, et que le résultat, enfin, j'exagère un peu, mais parfois il n'y a que le résultat qui compte. Moi, dans ma discipline, si je prépare des gens en force et en haltéro, et sinon des gens lambda qui pourront crossfit pour aller mieux, ou pour prendre de l'hypertrophie. Imaginons l'hypertrophie, c'est une méthode qui est prouvée par absolument rien du tout, qui est même désapprouvée, on me montre que c'est dangereux, que je ne vais pas prendre de gains musculaires à personne. Si pour cette personne-là, j'ai des gains musculaires qui sont super bien, et que cette personne-là est contente et progresse, et dans ce cas, je ne changerai pas du tout, même si c'est désapprouvé par la science. Parce que du moment que ça fonctionne, c'est OK. Au bout d'un moment, le résultat compte toujours. Et c'est ce que de nombreux prépas diront aussi, c'est que le résultat compte avant tout. Si ça marche, pourquoi arrêter si, même si la science prouve que ça ne devrait pas marcher? Chez certaines personnes, ce sera toujours le cas. Il y a des certaines personnes, je ne sais pas pourquoi ça marche. C'est comme ça. Et bien dans ce cas, il faut continuer.
Et surtout, ce qui est aussi important, c'est de se dire qu'est-ce que la personne vient chercher. C'est-à-dire que si la personne, elle vient chercher une performance, et là, on reprend toujours l'équation entre ce que ça te coûte et ce que ça t'apporte, c'est si la personne vient chercher quelque chose et que toi, tu es en mesure. Après, moi, c'est mon bémol que je mets. Moi, je mets jamais en danger l'individu, dans le sens où si la personne me dit. Par exemple, je veux perdre 50 kilos en 2 mois. Bah, moi, ça me semble peut-être compliqué pour telle ou telle raison. Tu vas expliquer. Par contre, si la personne te dit, je veux mieux me sentir, je veux me sentir mieux parce que, par exemple, j'ai du mal à dormir, et que toi, tu vas trouver des astuces, mais peu importe ce qu'elles sont, qui ne la mettent pas en danger plus qu'elle est et qui règlent son problème de sommeil, tu as gagné. Fin du truc humain. Par contre, et ça, moi, j'ai la chance de le pratiquer avec Sébastien Billard, on en parlait, qui. Lui est sur le terrain et donc lui il coach 200 athlètes, hein. Il est gérant d'une boxe sur Lyon et lui les réflexes archaïques il les teste avec ses athlètes qui on peut vous envoyer les retours qu'on a sur des gens qu'on a vus une ou deux fois, une fois qu'ils ont intégré le réflexe. Bah, si c'est du placebo peut-être, hein. Mais moi j'ai tendance à fonctionner de façon très cartésienne, c'est-à-dire on teste au début de séance, on corrige, on reteste. Si la personne, entre le moment A et le moment B, vous avez fait une action, si la personne va mieux à B que A, il y a quand même des chances que ce soit l'action qui est impactée. Je dis des chances parce qu'il peut y avoir d'autres choses. Il peut y avoir les mots que tu lui as dit, il peut y avoir la compréhension qu'elle a fait que peut-être il y avait un problème et elle est déjà en train de le résoudre inconsciemment, peut-être. Mais en tout cas, entre A et B, la seule chose tangible à voir, c'est l'action. Et bah, quand tu réintègres les réflexes chez des athlètes, notamment tout ce qui est réflexe de protection des tendons, tout ce qui est réflexe de Moreau, tout ce qui est réflexe asymétrique du cou, tu vois une amélioration de A à B. Moi, ça me suffit pour me dire que ça a un impact. Après, est-ce que la science va le prouver? Peut-être on en reparle dans 20 ans. Parce qu'il y a aussi que la science, elle met parfois du temps à comprendre un concept.
Exactement, ça c'est extrêmement vrai. Et j'aimerais que tu nous montres un peu, enfin nous montrer, c'est compliqué, mais nous explique un peu, par exemple, comment ça se passe avec un client, genre quelqu'un qui t'appelle pour tel ou tel problème, et qu'est-ce que tu vas le tester, qu'est-ce que ça veut dire intégrer un réflexe, qu'est-ce que tu vas faire au début de la séance pendant et retester à la fin de la séance. Je vais te donner un exemple, peut-être qu'un cas que tu as eu, pour qu'on puisse bien voir un peu de comment se déroulerait une séance de quelqu'un qui pratique posturo, réflexe archaïque, enfin de quelqu'un de comme toi. Quoi.
Alors, moi, quand quelqu'un va venir me voir, la première chose, c'est que moi, je communique très peu sur ça. C'est-à-dire que les gens viennent me voir parce qu'ils ont entendu parler, etc. Donc déjà, ça élimine un peu tous les curieux. En général, c'est des gens qui ont eu d'autres gens depuis un moment. Ils ont vu des kinés, des ostéos, ils ont vu des coachs et ils ne trouvent pas la solution et ils viennent me voir. Donc moi, déjà, ils savent déjà clairement quel est le problème, par exemple. Ou alors, ils ont vu des hypnothérapeutes. J'ai beaucoup sur le stress, mais là, on va prendre le côté un peu plus muscu. Il y a, par exemple, un problème sur un mouvement où ils ont vraiment du mal à sentir la connexion, ou ils shiftent, ou ils ont très mal au bas du dos, par exemple. Le mal au bas du dos, c'est assez parlant. Moi, je vais essayer de comprendre. Donc déjà, je vais, si possible, les voir bouger. C'est pour ça que je lis vraiment le sport à ça. C'est, ok, t'as mal au dos, comment tu bouges sur ton deadlift? T'as mal au dos sur ton deadlift, comment tu bouges? Et si tu vois que la personne a une technique désastreuse, bah, est-ce que déjà en changeant la technique, c'est mieux? Non? Ok. Bah, c'est peut-être que tu ne peux pas changer la technique parce qu'il y a autre chose. Et derrière, je fais l'anamnèse totale. Et après, encore une fois, ça n'appartient qu'à moi. Moi, je considère que tu ne peux travailler avec quelqu'un que si le système global de l'individu est prêt. Donc, c'est des trucs tout cons. Est-ce que tu as bu suffisamment aujourd'hui? On a, je ne sais pas combien de personnes qui sont déshydratées. Ok. Bah, déjà, on va boire un coup. Est-ce que au niveau vestibulaire, est-ce qu'au niveau tactile, est-ce qu'au niveau proprioceptif, c'est OK? Tu veux soulever 150 kg sur ta barre, mais par contre, tu n'es pas capable, quand on te fait faire un test de Ramberg, les yeux fermés, pieds collés, de tenir droit. Bah forcément, ça pose un problème. Donc, tu veux soulever une barre, tout le monde a des problèmes de grippe maintenant. Mais tu chatouilles la main des gens, ils ont des réflexes. Enfin, tu vois, on en revient à, je te chatouille la main et toi, ça te fait des chatouilles, des guilis. Bah, imagine pas que la barre de 150 kg, elle va pas t'envoyer une information un peu bizarre. Hein. Donc déjà, tu vois, tout ça, on va le regarder. Et après, bah, on va faire l'anamnèse. Ok, quand c'est que ça te fait mal au dos, on va regarder au niveau postural. Est-ce que tes pieds prennent une bonne information au sol? On le voit de plus en plus, des gens qui disent, je fais du soulevé de terre en chaussettes pour mieux sentir le sol. Mais c'est complètement con. Dans le sens où, si tu veux mieux sentir le sol, mets-toi pieds nus. C'est-à-dire que moi je suis tout à fait fan des mecs qui veulent sentir le sol en deadlift pour bien s'ancrer, etc. Par contre, quitte à dire que tu veux sentir le sol, sens vraiment le sol, sens les aspérités avec ton pied, etc. Mais ces gens-là, quand tu les questionnes, tu te rends compte qu'en fait, souvent sous le pied, il y a un petit truc qui les dérange. Ils vont te dire « Ah, j'aime pas me mettre pieds nus. Ouais, mais ça me chatouille, des trucs comme ça. » Bah déjà, peut-être qu'on peut chercher là. Après, moi, je vais regarder la connexion avec le nombril. Est-ce que tu es capable de ressentir ton nombril et tout ce qui se passe autour, hein. Là, on parle d'abdos, on parle de cage thoracique, on parle du diaphragme, on parle de tout ça. Est-ce que tu es capable de le sentir en même temps que tu bouges ton doigt, par exemple? Parce que si tu n'es pas capable de faire ça, quand tu vas avoir une barre à 150 kg au bout du bras, bah, ça va être encore plus dur d'être connecté. Et en fait, progressivement, on va voir un petit peu toutes les étapes. Et va ressortir ensuite un test des réflexes. Donc forcément, moi, je vais faire des liens et des corrélations entre ce que je sais des réflexes qui peuvent impacter la vie de tous les jours. Il y a des réflexes qui vont être plus émotionnels, il y a des réflexes qui vont être plus physiques, il y a des réflexes qui vont être plus d'un côté, d'autres qui vont être plus sur le plan sagittal, d'autres sur le plan frontal. Donc j'ai tout ça. Et derrière, je me dis, ben, on va attaquer sur un réflexe. Moi, je dis toujours, il faut régler l'éléphant avant de régler la souris. Dans le sens où le plus gros réflexe, on va le travailler. Quand je dis on va le travailler, c'est que on va faire une intégration isométrique et là, on en retrouve au schéma du sport. Comment fait quelqu'un, en tout cas, tu me diras si je me trompe, mais en force athlétique, imaginons que sur le squat, tu as vraiment un endroit où c'est difficile. Par exemple, tu as le bas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer du temps dans cet endroit. Mais du temps de façon progressive. Tu ne vas pas aller à ton max dans cet endroit. Tu vas plutôt d'abord passer 5 secondes avec un poids plus léger pour t'habituer. Bah, c'est un peu pareil pour les réflexes. On fait une intégration isométrique. Exemple, bah si tu n'es pas connecté du nombril à l'épaule, je vais te demander de venir pousser avec ton épaule contre ma main tout en appuyant sur ton nombril, mais à 25% de ta force. Et du coup, tu vas envoyer une information au cerveau qui est « Je contrôle ce pattern, il ne se passe rien, pas de problème. » Ok, on va faire ça quelques fois. Ensuite, on peut le faire en dynamique avec des exercices, notamment de sensoriel au bout du doigt avec toujours le nombril connecté. Donc, il y a plein de façons de travailler l'intégration d'un réflexe. Moi, j'aime bien commencer par l'intégration isométrique parce qu'en plus, elle me parle en tant que sportif. Et après, derrière, bah, tous les mouvements, et ça, c'est moi ce que je rajoute tout le temps, tous les mouvements de bercement, tous les mouvements, peut-être que tu connais, toi, Original Strength, c'est Tim Anderson qui a fait ça. Bah, en fait, bercement, retournement, respiration, toutes ces choses-là, qui en fait, si tu lis le livre de Anderson, parle d'intégration des réflexes. Et c'est pour ça que je dis vraiment, le sport, c'est en haut de la pyramide. Et même les kinés qui disent je ne crois pas aux réflexes, ils les intègrent en fait par leur pratique tout le temps. Donc, les réflexes, c'est comme les gens qui disent je fais de la neuro. Mais tous les mouvements viennent du cerveau. Donc, tu fais du sport, tu fais de la neuro. C'est juste que bah, c'est quand même cool de mettre je fais un suivi neuropostural. Tu sais, tu peux le vendre 10 euros plus cher, c'est cool. Mais en fait, on fait tous de la neuro. Toi, tu pourrais vendre des neuroprog. C'est pareil. Parce qu'en fait, ça a un impact sur le cerveau. Les réflexes, il y en a de partout, mais c'est peu compris malheureusement.
Okay. Pour revenir sur bah, moi, la partie qui m'a parlé, c'est quand tu parlais, par exemple, voilà, il a un angle, on appelle ça un angle faible, par exemple, sur le squat. Moi, de mon premier réflexe, d'un point de vue prépa, c'est qu'il y a trois façons de passer. De mon point de vue, il y a trois façons de passer un point de ralentissement sur le squat. Imaginons qu'on disait que c'était en bas, ou juste au-dessus de l'appareil, par exemple. Donc, imaginons que c'est juste au-dessus de l'appareil. Il y a trois façons. La première, ce qu'on a dit, c'est en isométrie. Donc, c'est faire une pause à cet angle faible-là. Plus on passe de temps dans cet angle-là, plus on se renforce dans cette position pure. Je crois que ça varie de 15 à 10% avant et après. La première chose, donc, bon, et comme tu as dit, peut-être au début, ce sera à 50%, 60%, augmenter, etc. La deuxième façon de faire, c'est d'arriver à cet angle faible avec plus de vitesse. C'est-à-dire que la partie basse, je vais m'entraîner à monter très vite pour que quand j'arrive à cet angle faible, j'arrive à cet angle faible plus vite. Et du coup, la décélération qui se crée parce que je suis faible est moins grande. Et du coup, la barre continue de monter et je monte. Et la troisième façon, qui est la moins efficace, mais qui est moins efficace, qui en force athlée n'est pas forcément la plus efficace, mais pour des gens qui font tout ce qu'on appelle plutôt power building, qui font un mélange hypertrophie muscu, est très efficace. Ça va être de, ok, à 80%, c'est quel muscle qui bosse? Et de dire, ok, dans ces muscles-là, c'est qu'ils sont faibles, dans ce cas, je vais renforcer. Imaginons tout en bas du squat, donc vraiment pour quelqu'un qui a un squat très profond, on sait que les adducteurs sont très étirés et fessiers aussi. On se dit, bah écoute, c'est peut-être ça, adducteurs, fessiers qui sont très étirés, et je vais les isoler en plus après ma séance. Donc ça, c'est vraiment le truc le moins optimal parce que c'est ce qui a le moins de transfert, mais qui existe aussi. Et donc ça, c'est trois façons de faire. Donc toi, du coup, c'est l'isométrie. Est-ce que, moi, ma question, c'est par exemple, est-ce que c'est possible que moi, de mon réflexe de coach, je me dis, bah, je vais faire aussi isométrie. Et par exemple, dans le cas où ça ne marche pas, est-ce que ça peut être, par exemple, un truc que je ne comprends pas? Par exemple, ça peut être un défaut de posture. Est-ce que ça peut être parce que sa connexion à son noyau n'est pas bonne? Et comment je pourrais le voir? Comment on peut le voir, ça, par exemple? Sur un squat, il a un angle faible. J'ai beau faire l'isométrie, qui est pourtant théoriquement une des meilleures méthodes pour ça, il n'y a rien qui fonctionne. Qu'est-ce que je peux chercher chez la personne pour me dire, ok, là c'est un problème qui sort de mes compétences.
Alors, moi, ce que je dirais là, c'est est-ce que déjà l'athlète, consciemment ou inconsciemment, il sait que c'est une bonne chose d'aller vite dans cette phase? Parce que souvent, par exemple, je reprends, il est nul en bas du squat. En des termes forts, mais il est nul en bas du squat, du coup il veut pas passer de temps et du coup la remontée elle est un peu cata parce qu'il a un peu lâché. On en revient à l'écologie, est-ce que c'est pas mieux pour lui de pas lutter là? Donc si la réponse, comme tu dis, au power building, on s'en fout, il y en a, ils vont juste se dire je veux faire mes 10 reps à 100 kilos, ils s'en foutent de la forme entre guillemets. Par contre, en force athlétique, il va y avoir des ordres, donc ces ordres ils vont être nécessaires. Donc déjà, tu vois, il y a deux trucs. Si par contre le mec il sait qu'il a des ordres et il n'arrive pas à tenir en bas. Et ben moi, en fait, avant de regarder sur le squat, je me dirais, et on va reprendre ton raisonnement, tu sais, ça peut être les adducteurs, ça peut être les fessiers. Pourquoi ils ne sont pas en mesure d'agir à ce moment-là? Est-ce que les muscles isolément sont trop faibles? Ou est-ce qu'ils considèrent que c'est mieux de ne pas lutter? Mon avis à moi, je repasserai par des schémas moteurs primaires, c'est-à-dire Le rampé notamment, est-ce que sur le rampé, la personne va vraiment appuyer sur le sol avec son gros orteil? Est-ce qu'il va y avoir un impact, tu vois, au niveau, parce que du coup, quand tu rampes, il y a quand même une jambe qui est très fléchie, donc on se retrouve dans le pattern du squat, du bas du squat. Est-ce que quand il rampe, il a que son poids de corps et il est unilatéral, est-ce qu'il est capable de pousser? Et si là, la personne, elle n'est pas capable de pousser, et tu verras, si un jour tu veux tester sur tes athlètes en squat, malheureusement, il y a beaucoup de gens, on l'a fait l'autre fois au séminaire de CrossFit, il y a beaucoup de gens où ils n'arrivent pas à pousser sur le sol avec leurs gros doigts de pied. Et pourtant, on va leur dire en squat, il y a le trépied au sol. Mais ils n'arrivent déjà pas à le faire quand ils rampent. Donc tu leur mets une barre sur le dos, c'est mort. Donc en fait, ça se trouve, c'est pas que les ischio-jambiers ou les adducteurs sont trop faibles. C'est que la personne n'arrive pas. Toutes les chaînes musculaires sont liées quand même. Si par exemple, essaye de pousser très fort avec ton quadriceps dans le vent, c'est pas pareil que quand tu pousses contre une résistance. Imagine maintenant que la résistance que devait porter le pied sur le sol est nulle. Bah, ça se trouve, c'est pour ça que le corps ne peut pas y aller. Pareil, si la personne, elle a je sais pas moi, par exemple, un réflexe au niveau du dos asymétrique, bah, il y a peut-être un angle qui va moins y aller. Et en fait, en bas, c'est le moment où le contact du t-shirt va être le plus actif sur le dos et va faire le réflexe qui fait qu'elle ne veut pas y passer du temps et qu'elle va repousser. En fait, il peut y avoir plein de raisons. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant qu'on ait ce podcast et que les professionnels travaillent ensemble, même les kinés, c'est que, en fait, on a chacun des approches. Si ça se trouve, toi, tu vas être avec un athlète, tu vas être avec 10 athlètes. Les 10 ont le même problème. Toi, tu vas avoir ce problème de je suis nul en bas du squat. Et il y en a peut-être trois avec qui tu vas, avec ta méthode, ça va fonctionner. La première méthode, léger et on passe du temps. La deuxième, tu vas peut-être en avoir trois où ça fonctionne. Et après, tu vas en avoir quatre où ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, il manque quelque chose de la base d'avant. Et là, toi, tu vas aller piocher. Et peut-être c'est les réflexes archaïques. Peut-être c'est un problème vestibulaire. Problème, c'est un problème tactile. Et là, du coup, tu passes pas de 6, tu passes à 8. Et puis peut-être que en travaillant l'articulaire avec le FRC, les trucs comme ça, tu vas passer à 9. Et puis peut-être qu'en passant en prépa mentale et en hypnose, tu vas passer à 10. Ce qui est sûr, c'est que, et ça en tout cas c'est ma conviction, c'est pas sûr du tout, c'est ma conviction, tu ne peux pas être 100% efficace tant que tu as des compensations. Il y a des gens qui ont des réflexes archaïques qui ne créent pas de compensation. Il y en a. Moi j'ai vu des gens qui vivent dans la pleine nature, etc. Et ça se passe beaucoup mieux. En ville, à Paris, moi je suis à Paris, hein. À Paris, les réflexes archaïques, quand tu les traites, ont des gros impacts sur les performances, sur les émotions, etc. Par contre, est-ce que ça remplace le mouvement? Pas du tout. Et du coup, même, j'ai envie de te dire, certains mouvements vont réintégrer les réflexes. Par contre, ce qu'il faut toujours se dire, si quelqu'un n'est pas capable de nager, tu vas pas le mettre à 100 mètres du bord, dans une mer hyper agitée, les mains liées. Tu vas d'abord le faire apprendre à nager à un endroit où il a pied, où il peut se reposer. C'est un peu pareil avec les patrons moteurs. Si la personne ne sait pas ramper, si la personne ne sait pas marcher à quatre pattes, bah quand tu vas lui demander de faire un snatch et de lier un tirage vers le haut du corps, une extension des hanches, plus un passage sous la barre, plus garder le regard fixe, bah la personne sait trop. Et pourtant, notamment dans le CrossFit, quand c'est fait de façon progressive, ça fonctionne. Peut-être que ces étapes-là permettent de réintégrer les réflexes. Sûrement d'ailleurs. Par contre, est-ce qu'en travaillant les yeux, est-ce qu'en travaillant le tactile du pied, est-ce qu'en travaillant la main, est-ce qu'en travaillant les réflexes, tu peux aller plus loin, plus vite et de façon plus écologique? Je le pense sincèrement.
Du coup, là, j'ai plusieurs questions qui me viennent. La première, pour rester dans le snatch, comme on disait, CrossFit, donc l'arraché. En tant que coach, donc en coach du CrossFit, donc on est entre 10 et 12 personnes. Par exemple, sur des débutants, je vais leur apprendre l'arraché. Enfin, pas l'arraché en une séance, mais je vais commencer un processus pour apprendre l'arraché. On observe toujours, n'importe quel coach, je vous le dis la même chose, que certaines personnes vont apprendre, entre guillemets, très vite, et d'autres, ça va être très très long. Par exemple, il y a des personnes, après il y a des cas exceptionnels, genre lève la main droite, c'est le pied gauche qui bouge, ça m'est déjà arrivé une fois, mais ça reste des cas très très rares. Mais par exemple, j'ai des personnes qui vont apprendre l'extension en une fois. Je leur dis, bon, c'est pas correct dans l'haltéro, mais je vais leur dire sauter, la personne va sauter et l'extension sera pleine. Genre, par exemple, je leur dis la même chose, ça ne marchera absolument pas. Genre, elle ne va pas comprendre le terme sauter, je vais utiliser d'autres termes, toujours pas, donc au bout d'un moment, ce sera plus la faute du terme, Et du coup, je me demande souvent, on observe aussi que il y a un manque de coordination. La question que je me pose souvent, c'est okay, pourquoi cette personne-là, elle, du premier coup, ou du deuxième coup, ou de la deuxième séance, elle a réussi à avoir un mouvement qui est correct et qui est safe? Et pourquoi cette personne-là, au bout de 6 mois, même en ayant adapté mon discours à cette personne, je sais que ça prendra énormément de temps. Est-ce que ça peut être du coup justement un... Mon terme sera pas correct, mais un problème au niveau des réflexes archaïques qui peut être la différence entre ces personnes de par leur environnement quand elles ont grandi, de par peut-être du manque de sport qu'elles n'ont pas fait, ou de par exemple, souvent les gens qui ont fait du sport quand ils sont jeunes, par exemple, je prends des sports comme foot, basket, tennis, qui demandent de la coordination, après dans la vie adulte, ont une coordination qui est souvent un peu plus développée que des gens qui n'ont absolument rien fait. Et ça se voit aussi très facilement du coup quand on donne des cours en haltéro. Est-ce que du coup ça peut être un problème de développement ou de non-développement, de compensation dû au réflexe archaïque qui fait qu'une personne va apprendre beaucoup plus facilement qu'une autre?
Bah, la seule façon de savoir, c'est de tester les réflexes de ces gens-là. Et ce que je te dis, c'est que nous, enfin moi, j'ai la chance de le faire avec Sébastien qui teste sur le terrain. Et il n'y a pas de secret, en fait. Très souvent, tu retrouves chez les gens qui ont des difficultés. En fait, vraiment, il faut reprendre ce contexte de survie. L'être humain, tout ce qu'il veut, c'est survivre. Et est-ce que le pattern du snatch va t'aider à survivre? Bah, pas forcément.
Off.
Par contre, est-ce que ça va être un effort pour toi de l'apprendre ou pas? Bah, il y a des gens pour qui ça va pas du tout être un effort parce que tout est OK. Et là, on reprend la connexion avec le nombril, on reprend toutes ces choses-là. Effectivement, les sports dont tu as parlé, foot, basket, hand, ils lient haut du corps, bas du corps, ils lient prise d'information au niveau des yeux, ils disent, par exemple, regardez d'un côté, regardez à droite. Donc, c'est énorme. Tu vas parler à un mec qui fait de l'escrime. L'escrime, il est toujours du même côté, avec toujours le même œil, avec toujours les mêmes muscles en extension, toujours les mêmes muscles en flexion. Alors quand lui, tu vas lui demander de faire un truc, il a beau avoir fait de l'escrime de haut niveau, ça va pas être pareil. Tu vas demander à un nageur d'avoir des contacts au sol, évidemment. Mais au-delà des réflexes, pour moi, ça, c'est l'évolution motrice de l'individu. Par contre, ce que tu dis là, moi, je l'observe de façon systématique. Il y a des gens, quand j'arrive dans une salle de sport, je coachais au Jardin du Luxembourg tout à l'heure, j'ai vu un mec, à chaque fois qu'il faisait des pompes, quand il étendait les bras, il était en extension de la tête. Quand il fléchissait les bras, il était en flexion de la tête. Lui, j'ai pas besoin de le tester. Je sais que c'est un réflexe tonique symétrique du cou, il y a de grandes chances. Voilà, c'est comme ça. Donc, moi, de mes observations, j'observe que c'est quand même très typique. Et les gens qui ont du mal à apprendre, c'est simplement que c'est pas écologique pour eux d'apprendre. Et là, on touche un domaine qui, moi, me sensibilise encore plus. Les enfants à l'école. L'enfant hyperactif est rarement hyperactif par plaisir, hein. En général, c'est qu'il y a quelque chose qui va faire en sorte qu'il ait besoin de cette stimulation en plus. Donc, on se rend compte qu'au moment présent, être hyperactif, c'est la meilleure chose pour lui. Par contre, sur du moyen long terme, être hyperactif, ça casse les couilles à ses parents, à ses potes, à la maîtresse. Du coup, il se fait engueuler. Donc, comment on lui donne des ressources? Bah, c'est un peu pareil avec ton athlète qui comprend rien. Et honnêtement, il n'y a rien de pire que... Moi, je coach monsieur et madame tout le monde surtout. Avant de passer par les réflexes, pour apprendre le patron moteur du soulevé de terre, par exemple, avec une kettlebell, mais je mettais 1 000 ans, je devais donner 1 000 consignes des fois. Et je me disais, mais c'est pas possible d'être... Et comme toi, j'ai essayé de changer les consignes. Et puis en fait, ça fonctionnait pas. Et puis un jour, tu passes par les réflexes et tu te rends compte que les gens, ils apprennent en 2 séances au lieu d'apprendre en 8. Est-ce qu'ils auraient appris sans les réflexes? Oui. Est-ce que tu as gagné 6 séances? Oui aussi. Donc aujourd'hui, encore une fois, la personne compensait, la personne avait besoin de repères. Je pense que reprendre la base, c'est construire une maison sur un sol pas droit. Tu peux, hein? Il y en a plein qui le font. Par contre, ça peut s'effondrer. Alors que tu enlèves, quand tu sais que c'est instable, tu enlèves tout ce qu'il y a dessus et tu reconstruis sur la base, tu lisses tout, tu as quand même plus de chances que ça se passe bien. Moi, en tout cas, c'est ma vision et c'est vraiment de se dire, bah, le sport, c'est le toit de la maison. Mais par contre, tu ne mettras pas un toit sur une maison instable. Et malheureusement, c'est, je trouve, ce qui est un peu fait dans l'industrie du fitness, aussi parce que les clients, ils veulent pas aller mieux. Tu vois, il y a des gens, ils viennent parce qu'ils veulent, ils veulent pas aller mieux physiquement, ils veulent juste avoir des gros pecs, ils veulent juste avoir des grosses cuisses, ils veulent avoir des gros bras, ils veulent se défouler. Et comment on amène ça? Et tu vois, on parlait tout à l'heure de l'isométrique. Est-ce que tu peux faire de l'isométrique avec tous tes clients avant chaque séance? Non. C'est pour ça que la méthode Tim Anderson, Original Strength, c'est intéressant parce que d'ailleurs, tu as plein de mecs qui le font dans le CrossFit de partout. Les mouvements animaux, par exemple, le quatre pattes, le beer walk. Mais les gens le font, c'est très bien. Ils savent pas pourquoi ils le font, hein. Moi, je discute énormément avec les profs de yoga. Le yoga, c'est une méthode d'intégration des réflexes incroyable. Mais ils savent pas ce qu'ils font. Une fois que tu comprends ce que tu fais, alors là, c'est parfait, quoi.
J'ai une question. Est-ce que tu pourrais nous donner genre une idée de pour que les gens se rendent compte un petit peu de s'ils ont un problème ou pas sur ces réflexes, un test que les gens pourraient faire eux-mêmes chez eux à la maison pour se rendre compte ou non par exemple de d'un problème
D'un réflexe.
ouais, d'un réflexe.
Je trouve, et encore une fois, c'est à mes yeux, que le plus simple à tester, c'est vraiment de prendre le pied de quelqu'un, lui faire relâcher le pied, et venir glisser un stylo sur le côté, tu vois, le bout du stylo où il n'y a pas la mine, du talon sur le bord externe du pied, du talon jusqu'au doigt de pied. Voir s'il y a une réaction. Je trouve que c'est le plus facile à tester. L'autre chose. Et si les gens sont curieux, c'est d'aller voir sur la page Le plaisir d'apprendre sur YouTube. C'est la page que tient Paul Landon, qui, je trouve, moi, sur les réflexes, est celui en France qui est le plus intéressant. C'est vraiment le terme. Et vous aurez vraiment tous les réflexes, la façon de les tester. Vous aurez vraiment plein de choses. C'est des vidéos qui sont assez longues, mais il y a un contenu qui est. Je connais personne qui donne autant de contenu gratuit. Ça vaut vraiment le coup même d'aller faire ses formations, etc. Et là, vous aurez vraiment tous les réflexes. Parce que. Le problème, c'est que souvent, sinon, c'est mal testé. Et bah, c'est comme en squat, si tu dis à quelqu'un c'est quoi ton max et qu'il a fait un quart de squat, tu sais pas son max. Donc, c'est un peu pareil pour les réflexes. C'est pour ça que le réflexe de Babinski, je trouve que c'est le plus connu. Et en plus, il est assez facile à faire. Les autres réflexes, ça vaut quand même le coup d'aller checker sur la page YouTube.
Ok. Et pour continuer ça dans le concret, je reprends l'exemple du pied que tu as donné. Par exemple, d'instinct, je ne peux pas le faire maintenant du coup, mais je me dirais, si tu me fais ça avec un bord d'un stylo, moi qui crains les guilis par exemple, je me dirais, mon pied va s'enlever direct. À mon avis, je dis ça au hasard, je ne sais pas. Est-ce que du coup, ça signifie que j'ai un problème de réflexe avec mon pied?
Bah, je vais te dire un truc, et ça c'est encore une fois c'est mon avis. Ton cerveau il sait, et c'est pour ça que le cerveau il est prédictif. Ça c'est dans chaque action motrice. Les gens disent j'attrape ça, c'est parce que j'ai décidé d'attraper. Mais en fait, d'abord tu as la décision, ensuite le cerveau il prévoit un mouvement, ensuite il a le feedback de comment le mouvement s'est passé. Enfin voilà, il y a toutes ces étapes. Moi je sais que si tu me dis ça, c'est que tu as sûrement un des réflexes actifs au niveau du pied. Tout comme le réflexe de Moro, on demande à la personne de se mettre debout, les bras devant. Fermer les yeux, envoyer la tête en arrière et se laisser tomber dans nos bras, en gros. Il y a des personnes qui disent, mais moi je pourrais jamais faire ça. Mais en fait, on a déjà un exemple que le réflexe, il est sûrement actif parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas lâcher prise. Donc, moi je crois vraiment que le cerveau, il est prédictif. Je sais pas si tu connais les tapis champ de fleurs. Tu sais, c'est des tapis où il y a des. Bah, je vais t'en montrer un. S'il n'y a pas la vidéo pour le podcast, ils ne verront pas, mais toi, je vais te le montrer. C'est des tapis. Où en fait, tu as des picots dessus, tu sais, des trucs un peu, des points d'acupression, je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, tu vois, ça pique très fort. Et moi, souvent, je dis aux gens, je leur dis, ça pique fort, marchez dessus. Tous les gens qui me disent, ah non, je peux pas, quand on va regarder le pied, il y a des choses, sensoriellement, c'est pas OK, tu vois. Et il y a des gens qui montent dessus, ils me disent, ah, ça pique un peu, bah eux, je sais que c'est plutôt OK, tu vois. Donc, je reviens tout à fait. Et là, tu marques un point important. C'est, par exemple, dans le CrossFit, ceux qui ont du mal à se lancer en HSPU, par exemple,
Oui,
ou en
bon
Instant
exemple.
Walk.
Oui, donc se mettre en équilibre contre un mur pour ceux qui font pas
Voilà.
de CrossFit.
Et du coup, il y en a aussi, tu vas les voir, à peine ils sont en équilibre, ils ont les bras qui fléchissent.
Tout à fait.
Ça, en fait, c'est un patron moteur de l'enfance. C'est tout ce qui est au niveau du cou, les réflexes toniques symétriques. Il y a aussi du vestibulaire, il y a plein de choses là. Et ça, pour le coup, tu as des résultats canons en le réintégrant, tu vois. Parce que le patron moteur de l'enfant, c'est que quand il a la tête en extension, il a les bras en extension. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont comme ça sur la HSPU. Et après, qu'est-ce que le coach, il leur dit dans ces cas-là? Non, regarde-moi. Ça, c'est de consigne, on l'entend tout le temps. Les mecs, ils sont comme ça, ils sont bien. Et là, le coach, il dit non, mais là, ça te cambre le dos. Regarde-moi. Et là, la personne, elle regarde et les bras, ils se fléchissent. Et le coach, il dit mais non, mais garde les bras tendus. En fait, la personne, elle peut pas. parce que c'est réflexe et que c'est sous-cortical. Donc là, tu peux pas.
Donc là, ça veut dire que le coach ne devrait pas donner cette consigne si c'est le cas pour cette personne, et que du coup, cette personne aurait quelque chose à gagner de travailler avec quelqu'un comme toi.
Bah, ou avec son coach, si,
Oui, ou
avec n'importe
quelqu'un qui est
qui, des
formé, quoi.
moments où, voilà. Ou en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je veux dire, c'est quand les gens ne peuvent. Il y a des fois où les gens ne veulent pas faire, c'est autre chose, et ça, pour moi, c'est le rôle du coach, de l'accompagnant, de voir. Mais il y a des moments, tu sais, où tu vois le coach qui a répété 10 fois la consigne, et la personne, elle n'y arrive pas, tu vois. Et pareil, tu vas sentir chez la personne que ça crée une vraie tension de ne pas réussir. Moi, je connais personne qui aime être nul. Hein. Je connais zéro personne. Enfin, je pense que l'être humain aime découvrir des choses, apprendre. Donc si la personne, elle ne fait pas, il y a peut-être un blocage avant. Et moi, j'aurais tendance à donner ce conseil au coach, c'est peu importe si c'est par les réflexes. Aujourd'hui, la situation que tu donnes à l'individu, se mettre en HSPU, c'est trop dur. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, on dit toujours au CrossFit, il faut adapter. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Des pike push-up, ça s'appelle, c'est ça?
C'est ça. On a les pieds au sol, les mains au sol, mais on vient lever les fesses. Donc ça fait comme
Voilà.
une pyramide, et on mime un peu le mouvement de
Rien.
descente sur les épaules.
Donc ça, au niveau des épaules, c'est beaucoup mieux, on a réduit. Mais au niveau de notre problème du cou et des muscles extenseurs, on est toujours pareil. Et du coup, qu'est-ce qui arrive après? On fait faire des push-ups. Et là, ça va bien avec les push-ups. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a plus la tête en extension. Et du coup, le coach, pour moi, le coach vraiment nul, il va dire à la personne, continue de faire des HSPU, mais fais-les correctement. Le coach un peu mieux, il va dire, fais des pike push-ups. Le coach bon, il va se rendre compte que même en pike push-up, il y a un problème, il va passer peut-être sur des push-ups. Il va se dire, là, c'est OK. Tu peux faire ton round, tu fais ton intensité, c'est bien. Et pour moi, le très bon coach, le coach dont on doit valoriser, il doit être là et à la fin de séance, il doit dire à la personne, écoute, parce que pendant la séance, il a 10 personnes, il ne peut pas le faire. Écoute, est-ce que tu as déjà eu des problèmes quand tu mets la tête à l'envers? Est-ce que debout, ça fait quelque chose? Il faut aller chercher, il faut aller creuser. Moi, je ne connais pas un coach, et peut-être ça viendra, hein. Je ne connais pas un coach qui a mis le nez dans les réflexes archaïques, qui s'y est intéressé vraiment et qui n'en a pas sorti une plus-value dans sa pratique. Je dis une plus-value, je ne dis pas que tu dois tout remettre en cause de ta pratique. Je reprends l'exemple de Seb avec qui je bosse beaucoup. Il fait 200 coachés par semaine, il ne fait pas 200 bilans réflexes. Hein. Par contre, quand il voit un truc, tu sais, qui lui saute aux yeux en se disant, putain, mais ça, c'est vraiment ce que. Tu sais, c'est le chevreuil quand tu es sur la route là, qui traverse. Toi, tu t'arrêtes, tu piles. Bah, tu sais, quand tu vois un truc comme ça, tu te dis, merde. Et bah, lui, à la fin de séance, c'est le truc qu'il a fait, il va le tester, tu vois. Et pour moi, dans une salle de CrossFit où tu as beaucoup de gens, c'est vraiment ce qu'il faut faire parce que tu vas débloquer des choses chez les gens qui sont incroyables. Et une personne qui n'arrive pas à sauter sur une box, quand tu arrives à lui faire sauter sur une box, tu débloques beaucoup d'autres choses que du musculaire. Tu débloques de l'émotionnel, tu débloques de la confiance en soi. Et c'est là où c'est important, je trouve, dans le mouvement. Et t'as des gens qui n'arriveront jamais à le faire pour une connerie parce qu'ils n'ont pas rampé quand ils étaient petits, tu vois. Donc, fais-les ramper un mois. Et après, tu vois.
Ouais, l'exemple de la boxe, enfin, c'est sur la boxe, les gens ne se rendent pas forcément compte. Et nous, en tant que coach, on voit des gens, enfin, j'ai déjà eu des personnes qui, de réussir à sauter sur une boxe, donc une boxe, c'est une boîte en bois. Qui est haute de 20 ou 24 pouces. Donc ça fait 60 et 75 cm de hauteur de mémoire. Qui, pour la première fois de leur vie, ont réussi à sauter sur la boxe et se mettre à pleurer de joie. J'ai déjà vu ça 2 fois dans ma vie. Ou que se mettre en équilibre à l'envers, comme tu disais, la personne a des larmes aux yeux juste de réussir à se mettre en équilibre contre un mur, tellement c'était un blocage pour eux. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, là je serai avec un collègue à CrossFit Freya, qui est le coach de gym référent, on va dire. Il s'occupe des cours de gym. Et donc forcément, il y a des personnes qui ont peur de mettre la tête à l'envers. Il y en a plein. Et lui, il a des très bons résultats. Alors, à mon avis, c'est pas forcément pourquoi il y a des bons résultats. Mais tout ce que je vois, c'est que il va. Du coup, ça va être un travail. C'est pas ça va être un travail de skill, donc de technique. Il n'y aura pas d'intensité. Donc il n'ira pas sur une ponte. Il va peut-être commencer par la position pike push-up. Donc juste les fesses un petit peu en l'air avec les pieds au sol. Et voir comment ça se passe. Ça se passe pas bien, il va s'arrêter là et essayer de développer un peu leur donner des conseils pour que ça se passe mieux. Et après, si ça va, il va appeler le mec directement au mur. Il va faire une sorte de surcharge technique, pas si ça existe comme terme, mais il va peut-être mettre les pieds sur une box, donc sur une boîte en bois un peu plus haut, et la personne aura déjà la tête un peu plus en bas. Là, ça se passe toujours bien. Donc, il fera passer du temps dans cette position. Et petit à petit, il va lui faire monter les pieds. Et à chaque fois qu'il voit que ça bloque, il va revenir en position d'avant, lui faire prendre confiance. Et à la fin de la fin, je vois que je suis là à chaque fois, que les personnes progressent beaucoup plus vite comme ça, donc avec une surcharge technique, que d'autres personnes qui vont essayer 50 fois de mettre les pieds contre le mur.
Tu sais, ça me fait
penser à ce que tu disais.
Imagine
que
t'es dans une grotte, et ça va. Donc là, t'es l'individu, il sait que s'il met pas la tête en bas, il est en sécurité. Par contre, il sait que s'il met la tête en bas d'un coup, c'est un danger. Et là, tu lui dis, non mais regarde, sors un peu de ta grotte, va juste devant ta grotte. Tu te mets en pipe push-up, tu pourras revenir dans ta grotte si tu veux, tu vois. Et progressivement, tu lui montres que c'est sécuritaire. Donc, on en revient toujours à surcharge progressive. Est-ce qu'il a intégré le réflexe? Peut-être, peut-être pas. Dans ce cas-là, plutôt pas. Est-ce qu'il a intégré pour la personne que, tu vois, par exemple, si elle doit se lancer. Moi, j'ai eu le cas en gym, par exemple. J'ai eu gym à la fac et moi, je me chiais vraiment dessus de la hauteur. Et bah, j'ai fait tous les éducatifs du prof. J'étais capable, du coup, de faire le saut de lune. Je faisais une roue sur le cheval, ou je ne sais pas comment ça s'appelait, et je retombais. Et c'était OK. Et par contre, un jour, le jour de l'examen, le mec devant moi, il saute et il pète le tremplin. Pète le trampoline. Je le vois partir à 3 mètres de haut. Et ben là, j'ai plus du tout été capable de faire ça. Pourquoi? Parce que ça avait refait jaillir le stress de voir mon pote partir haut. Et du coup, je n'ai plus été en mesure de faire ce patron moteur qui était la roue. Donc en fait, on avait construit quelque chose de pas très stable, étape par étape. Et c'était bien. Par contre, moi, je serais curieux de voir avec les gens qu'il a en séminaire, est-ce que à la fin du séminaire, ils sont capables de se mettre contre le mur. Est-ce que par contre, tu leur demandes 2 mois après, sans les étapes avant, de se mettre contre le mur, ils seraient OK? Toi, c'est là où je te dis, la science, on peut dire ça, mais c'est vraiment dans l'humain que ça va se passer. Moi, pourquoi j'ai autant adhéré avec les réflexes, hein? J'ai fait la posturo, j'ai fait les patrons moteurs, j'ai fait le crossfit, j'ai fait tout ça. Pourquoi je suis resté dans les réflexes? Aujourd'hui, dans ma pratique, c'est ce qui a le plus perduré pour les gens et ce que je trouvais le plus écologique. Encore une fois, pour moi, je sais qu'il y a des gens qui bossent, notamment des kinés, des trucs comme ça, qui bossent avec l'amplitude articulaire. Il y en a qui vont bosser en mobilité. Il y en a qui font des automassages et ça marche. Bah, faites. Moi, aujourd'hui, j'ai pas trouvé mieux que ça.
C'est intéressant ce que tu disais par rapport à mon collègue et qui a donné des bons résultats. C'est vrai que peut-être que si d'un coup on voit quelqu'un tomber devant lui et s'éclater la tête au sol, peut-être que d'un coup, comme toi, la personne va
là,
être plus capable, justement parce qu'on
n'aurait
pas traité du coup ce réflexe-là.
Dans le sens où.
C'est intéressant.
En fait, il faut faire. C'est comme quand on t'apprend à faire une roulade, tu sais, pour te mettre en handstand.
Oui.
On t'apprend à faire la roulade. Pourquoi? Parce qu'on t'apprend que si tu tombes, ça va être OK en fait. Mais c'est très bien. Par contre, et moi, quand je dis je serais curieux, c'est pas je remets en cause. Parce que si ce qu'il fait, c'est bon, bah moi, je serais intéressé de le garder pour moi, tu vois. Par contre, dans la pratique, moi, les séminaires de gym, ça fleurit de partout, on va pas se mentir. Et à chaque fois, on voit des résultats de dingue. Mais par contre, au séminaire d'après, les gens, ils sont de nouveau là pour apprendre la même chose. C'est exactement, pour moi, comme le kiné qui soigne une tendinite, et qui 3 mois après revient avec la personne pour la même tendinite, pour la même périostite. C'est comme le diététicien qui propose une diète à quelqu'un, il fait 3 mois avec lui, ça va mieux, il le laisse 6 mois en autonomie, il le récupère 3 mois après. Au niveau marketing, c'est top, bravo. Au niveau humain, c'est moyen. Au niveau pro, moi, je remets en cause. Voilà. Pour l'instant, et mon retour, il est peut-être léger, parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans que je travaille sur ça. Pour le coup, les réflexes, quand c'est intégré, ça change la vie de façon durable, ça change le mouvement, ça impacte au niveau des émotions et au niveau des perfs, il y a quand même des résultats sympas.
Ok, c'est vraiment intéressant, j'avais pas du tout cette approche-là. Et du coup, une autre question que je voulais poser par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'était pourquoi les gens à Paris ont plus de problèmes que les gens qui vivent en pleine nature ou à la campagne ou autre? Pourquoi dans les grandes villes?
Déjà, pour moi, un des sujets majeurs, c'est le stress global. C'est-à-dire, la stimulation. Moi, je suis très sur les stimulations, et à Paris, tu es stimulé sensoriellement de façon très faible. Tout est lisse. C'est-à-dire que tu prends ton volant, c'est lisse. Tu vas dans le métro, tout est. Enfin, ton téléphone, c'est tactile. Tu sais, t'as plus les aspérités comme quand tu es dans la nature et que tu peux toucher, par exemple, un arbre et tu as un relief. Tu vas manger ta pomme. Il y aura, je sais pas, il y aura des aspérités, tu vois. Donc déjà, sensoriellement, niveau tactile, on est sous-développé. On est sous-stimulé. Par contre, à l'inverse, au niveau visuel, on est surstimulé. Il y a des voitures partout, il y a des lumières partout. Au niveau auditif, on est surstimulé. Au niveau rythme de vie, les gens se lèvent pas au bon moment, travaillent trop, il y a les écrans. Enfin, tu vois, c'est. Donc déjà, il y a le côté système nerveux. L'autre chose, et ça, tu sais, tu disais tout à l'heure, maintenant, quand je fais des cours d'haltéro, il y a la moitié des gens qui ont du mal. Je serais intéressé de faire un podcast avec toi dans 10 ans pour dire que dans 10 ans, ça sera 75% et dans 20 ans, ça sera 85%. Pourquoi? Je ne sais pas comment toi, tu étais quand tu étais jeune. Moi, j'ai grandi à la campagne. À 8 ans, bah, je jouais dans la boue. J'avais de l'espace. On me laissait aller dehors. J'allais jouer au foot avec mes potes, etc. Le jeune Parisien, et je vais faire un cliché, mais il vit dans un petit appartement. Donc déjà, il va pas être à quatre pattes comme toi, tu vas être. Il va être dans un petit lit, il va être bloqué. Ses parents, quand ils vont l'emmener se balader, ils vont le mettre dans un trotteur, dans un Yupala. Ils vont le mettre sur un vélo où on pousse le vélo. Ça, moi, j'ai jamais vu ça à la campagne, tu vois. Donc en fait, je reprends l'exemple des réflexes archaïques, c'est vraiment une cascade. Un réflexe doit s'intégrer pour laisser place à un autre, entre guillemets, hein, je vulgarise, pour arriver à l'être humain que l'on est. Sauf que là, ce réflexe, on ne le laisse pas s'exprimer. Donc lui arrive, mais celui d'en dessous, il n'est pas exprimé. Donc en fait, il est un peu moins bien. Et etc., on retrouve tous les réflexes qui ne sont pas bons. Mais on retrouve aussi, et là, des gens, moi j'ai des enfants qui viennent me voir à mon studio là où j'interviens, je leur lance une balle, incapable de l'attraper. Ben, en fait, c'est simplement qu'ils n'ont pas joué avec leurs parents. Pourquoi? Et là, on reprend, et c'est sociétal, les parents travaillent trop, sont stressés, passent moins de temps avec leurs enfants. Donc les enfants sont sous-stimulés ou stimulés par la télé, donc des stimulations auxquelles l'humain n'est pas habitué. Et du coup, quand derrière, il faut faire des actions motrices qui coordonnent. Tu sais, là, il y a une pyramide, c'est Mathieu Boulay là, qui l'a pas mal démocratisé en France, c'est la pyramide de Williams et Schellenberger. Donc c'est la pyramide de l'apprentissage, il y a vestibulaire, tactile, proprioceptif en bas, au-dessus, il y a l'auditif, le visuel, et encore au-dessus, il y a coordination œil-main, etc. Mais en fait, ça se fait naturellement. Quand tu es petit et qu'on joue avec toi, tu vas apprendre à regarder et à attraper. Imagine qu'on ne l'a pas fait. Bah, c'est là où il y a des gens qui sont ce qu'on appelle gauche maladroit. Tu leur lances une balle, ils sont incapables, ils n'arrivent pas à représenter leur corps dans l'espace. Donc tu rajoutes un objet, ce n'est pas possible. Et ça, moi, c'est ma théorie. Si ton système visuel, j'avais fait un post là-dessus sur Instagram en disant que la vision périphérique, c'était un des responsables du stress. Imagine que tes yeux ne sont pas capables de fonctionner de façon totale. Ton corps, par exemple, tu traverses la route. Ton corps, il sait qu'une voiture peut arriver. Mais il ne la voit pas parce que de toute façon, tu n'as pas de vision périphérique. Qu'est-ce qui se fait? Il veut survivre. Il va automatiquement se contracter, se mettre en état, pour encore une fois vulgariser, en état sympathique, pour être prêt à lutter s'il y a un danger. Parce qu'en fait, il ne sait pas s'il y a un danger. Par contre, si maintenant tu as cette vision périphérique et que tu vois qu'il n'y a pas de danger, tu n'as pas besoin de te mettre en sympathique. Tu sais qu'il n'y a pas de danger. Donc, à Paris, les gens, vu que sensoriellement sont sous-développés, je pense que leur système est en mode survie tout le temps. Et moi, j'ai des clients, mais je te dis, c'est choquant. Ils passent 2 semaines à la mer, ils reviennent, ils n'ont plus aucune de leurs douleurs. Pourtant, ils ont bu comme des trous, ils ont fait n'importe quoi. Juste, ils ont relâché, tu vois. À Paris, tu n'as pas d'horizon. Tu vois, quand tu es à la campagne, bah toi, à La Réunion, tu dois être ça. Des fois, tu as un horizon. Et tu vois tout. Et du coup, tu as une vision panoramique, tu vois les arbres, tu vois les reliefs. À Paris, tu vois des murs. Donc, je dis Paris, mais c'est toutes les grandes villes, hein. Donc, je pense que sensoriellement, on a 300 000 ans d'espèce humaine, et là, on a 20 ans de ce mode de vie. Donc, en fait, pour l'instant, on est inadapté à notre nouveau truc. Est-ce qu'on doit s'adapter? Bah, peut-être, mais ça va prendre 10 000 ans. Ou est-ce qu'on doit rester comme avant? Bah, c'est peut-être plus simple. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, les gens que moi j'ai au cabinet, les gens que j'ai à Lyon, les gens que je vois en formation, tout le monde est trop stressé. Et je pense que Le stress est une compensation de l'être humain aujourd'hui. Et du coup, pour revenir à ton sujet, le sport, maintenant, une personne qui, on le sait, hein, le système sympathique va activer la circulation sanguine, va activer tout ça, la pression pour être prêt à lutter. Mais lutter et fuir, c'est quel schéma moteur? C'est quasiment que des muscles d'extension, tout le temps. Du coup, si tu veux te battre, c'est avec tes poings, c'est extension du triceps. Si tu veux courir, bah, c'est toute la chaîne postérieure, etc. Tu vois, c'est toutes ces choses-là. Où c'est que les gens ont mal tout le temps? Est-ce que les gens ont mal sur des douleurs musculaires de flexion? Bah, franchement, c'est très rare. Les gens ont mal au lombaire. Les gens ont mal au genou. Les gens ont mal à toutes les articulations comme ça. Est-ce qu'en réduisant leur stress quotidien, ils ne seraient pas mieux à la salle de sport, tu vois? Parce que, et ça, moi, c'est ma théorie. Moi, j'ai un assobike chez moi. J'ai des chefs d'entreprise, j'avais en séance, ils me disaient, moi, je veux une séance pour tout éclater.
Ouais, ça c'est très très courant dans notre milieu. On veut des gens qui viennent et qui veulent finir par terre à quatre pattes. Sinon, ils n'ont pas l'impression d'avoir fait du sport même, tout court.
Mais est-ce que c'est écologique pour eux, sachant que, et en fait, ils disent, ouais, mais je veux me défouler. Mais en fait, c'est pas de défouler que tu as besoin, c'est de te calmer. Parce que 80% de ta journée, tu la passes en sympathique. Et là, bon, après, on dévie des réflexes, mais c'est quand même important. Au niveau des systèmes nerveux, alors, il faut sortir du. Il y a le sympathique et le parasympathique, c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, les gens que je fréquente, et dans les salles de sport, c'est souvent ça, ils sont toujours dans la lutte. Et tu arrives dans la salle de sport, combien de salles de CrossFit, combien de séances de muscu englobent un temps calme à la fin? Quand tu vas faire ton level 1, ils t'en parlent du temps calme. Ils te le disent à la fin. Et. Encore une fois, est-ce qu'ils savent pourquoi? Je ne sais pas. Par contre, c'est aussi pour ça que c'est si bien ficelé CrossFit. Ça, c'est très important. Combien de fois c'est fait dans les salles? Pas du tout. Parce qu'en fait, ce temps calme, on n'est pas là pour ça au CrossFit. Sauf que dans l'écologie de la vie humaine, sur du long terme, changer d'état du système nerveux, c'est important. Et là, on revient à ce que je disais sur les réflexes, c'est des compensations. Et si toi, tu as compensé toute la journée parce que tu as un problème oculaire, parce que tu as un réflexe archaïque, tu vois, de Moro. Je sais que ça va parler à certains. Moi, c'est hyperactif. À Paris, quand tu traverses, des fois, il y a le passage piéton et il y a une pause au milieu pour traverser l'autre voie. Moi, des fois, je suis au milieu et il y a une voiture qui passe derrière moi et je fais comme ça, là, j'ai un frisson, tu sais. Bah ça, c'est une des représentations, une des conséquences d'un de mes réflexes, qui est le Moro, peur paralysante, qui fait que là, mon corps s'est crispé pour aucune raison. La voiture. Moi, j'étais entre deux pylônes, la voiture, elle ne pouvait pas me toucher. Mais mon corps a quand même eu ce frisson. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai dépensé de l'énergie pour me protéger d'un truc où je n'étais pas en danger. Et ça, tous les gens le font. Donc.
Et sur une journée, ça peut être ultra fatigant de toujours avoir des réflexes qu'on ne devrait pas avoir, quoi. Nos puces
Et
d'énergie, etc., etc.
surtout quand tu vas t'entraîner le soir et que le soir, tu vas être dans une salle où on reprend le truc. Encore une fois, il y a des salles de sport qui le font très bien, d'autres où t'es 10 à soulever. Moi, j'ai coaché dans une. Enfin, je me suis entraîné dans une salle de Paris qui est très connue où il n'y a pas de place. Tu liftes les uns à côté des autres. Bah, imagine, toi, tu as ce réflexe de peur paralysante quand il t'arrive quelque chose derrière. Et toi, au moment où tu vas soulever ta barre, tu as quelqu'un derrière qui va faire un mouvement. Toi, vu que tu as une mauvaise vision périphérique, tu ne vas pas le voir, mais tu vas être tout crispé. Et là, on va te demander d'avoir du relâchement sur les bras quand tu tires. Pas possible. Donc, la muscu, très bien. Est-ce que la personne est capable de faire sa muscu? Moi, je connais honnêtement très peu de coachs qui prennent le temps au début de la séance de dire dans quel état nerveux t'es, qui ont des tests pour savoir dans quel état nerveux. Il y a eu Victoria de Human Movement Therapy là, qui a posté une story il n'y a pas longtemps sur montre-moi l'état de tes yeux, je te dirai dans quel état ton système nerveux est. Bah, elle va avoir ce capteur pour savoir comment sont les gens. Moi, je vais utiliser par exemple tout ce qui est non-verbal, la synergologie, des trucs comme ça pour savoir. Mais quand tu es coach, il y a des fois c'est évident et il y a des fois bah, c'est pas évident du tout. Donc, je pense que c'est vraiment un des avenirs du coaching, c'est on a des humains de plus en plus faibles, c'est une certitude, et on leur demande de plus en plus. Et on s'étonne qu'ils soient de plus en plus blessés. Donc, comment on fait aujourd'hui pour soit rendre nos humains plus forts? Ça serait merveilleux, soit réduire leurs contraintes pour les augmenter ensuite. Est-ce que tu préfères avoir quelqu'un qui s'entraîne un an à fond Ou quelqu'un qui s'entraîne pendant 10 ans de façon progressive.
10 ans à fond, hein. Enfin 10 ans à fond, 10 ans progressif, pardon.
Ouais, 10 ans progressif, et pour arriver à fond, et pouvoir tenir à fond, tu vois. Donc moi, pour revenir, je dirais vraiment que c'est vraiment cet aspect-là des réflexes que je veux mettre en avant. Et j'ai beaucoup changé vis-à-vis de ça. Avant, je disais vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire que ça, et tant que t'as pas fait ça, tu peux pas faire. Maintenant, j'ai un peu changé, je m'adoucis, je vois qu'il y a plein d'autres choses qui marchent. Mais c'est vraiment les réflexes, moi je le vois vraiment comme quelque chose qui permet aux gens de mieux vivre et de pouvoir s'épanouir dans ce qu'ils ont envie de faire. Je fais jamais d'accompagnement 100% réflexe. Il n'y a pas une personne qui me dit je vais pas bien et je dis tiens, tu viens me voir une fois par semaine, on fait des réflexes et ça va mieux. Par contre, le mouvement est une façon d'aller mieux. Réduire l'état du système nerveux pour passer en parasympathique peut être mieux. Améliorer le sommeil des gens peut être mieux. Et tout ça peut être impacté par les réflexes, par la posturo, par le sensoriel. Tu le vois de plus en plus en CrossFit, là, il y avait Sigmund Dottir. On la voyait faire des exercices avec des yeux, avec ses yeux. Tout ça. Mais en fait, dites-vous que pour les athlètes, c'est très bien, mais ça va être 1% de la perf, même pas. Par contre, pour Chantal, moi, en mentorat pour une coach, je lui ai fait faire de l'orthoptiste, bah, elle est moins stressée. Et des fois, tu as des résultats incroyables. Tu as des gens, tu leur fais faire l'orthoptiste et un mois après, ils ont les ongles qui poussent plus vite, ils ont les cheveux qui poussent plus vite. Quand je dis ça aux gens, les gens ils me disent, mais c'est quoi le lien? Ben moi, le seul que j'ai réussi à faire, c'est que le système nerveux, il est plus en sécurité et du coup, il peut mettre son énergie à aller mieux. Quelqu'un qui est en déprime, quelqu'un qui est en dépression, posez-vous la question, est-ce qu'en fait, c'est pas mieux pour lui d'être en dépression parce qu'il ralentit, tu vois? Et ça, je trouve que tu sais, par exemple, l'obésité. Moi, tu voyais mes statuts Facebook il y a 2 ans. C'était, bah, faut vous reprendre en main si vous êtes gros, tu vois. Et en fait, je me dis, à quel point c'est écologique pour toi aujourd'hui d'être dans cette situation? Qu'est-ce que ça te coûte d'en sortir, tu vois? Et ça, dans les salles de sport, on en a plein. Des gens, ils viennent pour perdre plein de poids. Et en fait, tu te rends compte que ces gens-là, on a du mal à les accompagner. Mais en fait, c'est parce qu'on ne les comprend pas sur d'autres points. J'ai pas de réponse à donner à ces gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut chercher quoi. En tout cas, ces personnes-là sont dans cette situation et si elles s'en sortent pas, c'est parce qu'elles ne sont pas en mesure ou que c'est pas écologique pour elles.
Et du coup, pour dernière question qui me vient à l'esprit, c'est comment une personne qui t'écoute, qu'est-ce qui pourrait lui donner envie ou quel serait l'élément déclencheur pour se dire, tiens, pourquoi je n'irais pas voir quelqu'un pour les réflexes arcaïques? En mode, tiens, tu as parlé du frisson dans le dos à une voiture qui passe derrière, par exemple. Mais moi, je sais par exemple que moi, ça m'est jamais arrivé. Mais qu'est-ce qui pourrait, dans la vie de tous les jours, me donner un indice que j'aurais besoin de travailler justement avec quelqu'un sur ces réflexes-là.
Bah, moi, ce que je dis aux gens, c'est est-ce qu'il y a des patrons, est-ce qu'il y a des patterns moteurs qui vous gênent tout le temps? Exemple, est-ce que tu as toujours mal, enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner? Après une réunion avec ton chef, tu as toujours la même douleur au ventre. Est-ce que à la fin de ta journée, tu as toujours des douleurs dans la nuque? Et pourtant, tu fais rien de spécial. Est-ce que dès que moment, toi, les gens, ils disent, ouais, depuis que je fais du sport, je vais mieux. Ok. Est-ce que dès que tu arrêtes le sport 2 semaines, ça va mieux. Je discutais l'autre fois, j'étais en formation avec un autre élève que j'apprécie beaucoup et qui était suivi par un kiné qui est très connu en France. Et il me disait, ouais, franchement, depuis que je suis suivi, j'ai plus mal à l'épaule. Ok? Mais du coup, il me dit, ouais, par contre, je suis obligé de faire mes exercices tous les jours. Mais jamais un être humain, il y a 500 ans, aurait été obligé de faire des exercices tous les jours de rotation interne, de pyrise, etc., pour pas avoir mal à l'épaule. Donc derrière, il y a quand même autre chose, moi, que j'aimerais creuser. Donc, s'il y a des choses qui sont récurrentes, s'il y a des difficultés, par exemple, à gérer son stress, et si des fois c'est non pas une difficulté, mais surtout une incapacité, moi, c'est là où ça m'intéresse. Quand vraiment la personne, il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, vous n'êtes pas coordonné, vous n'arrivez pas à faire des mouvements croisés, on vous dit par exemple de faire des mountain climbers, ça ressemble à rien. Tu sais, tous les mouvements où ça sort un peu de l'ordinaire, dumbbell snatch, il y a une épaule qui est là et l'autre épaule qui est ici. Vous avez une mobilité d'un côté qui est plus faible que l'autre. Tout ça serait intéressant de creuser. Mais moi, je considère que de toute façon, il faut creuser toutes les voies. Il y a les réflexes, il y en a plein d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demandez des vidéos à vos parents de quand vous rampiez quand vous étiez petit. Là, on arrive dans des générations où tout le monde a des photos et des vidéos de quand il rampait, quand il marchait à quatre pattes. Si vous voyez que vous rampez de façon pas très naturelle, si vous voyez que vous marchez à quatre pattes, mais en fait c'est un trois pattes, toutes ces choses-là, il y a de grandes chances que ça impacte aujourd'hui votre vie. Donc, si vous avez ces vidéos, regardez-les, amusez-vous, et n'hésitez pas au pire à me les envoyer, on en discute, et on peut voir un petit peu comment ça peut fonctionner. Mais là, il y a des choses à creuser souvent. Et pour toi, ta pratique, si par exemple, vous voyez un énorme shift au squat, vous passez les muscle up à un bras, vous êtes vachement plus à l'aise, vous avez un problème de grip d'un côté, vous avez, tu sais, les épaules, dès que vous faites du farmer carry, vous avez les épaules qui s'affaissent, toutes ces choses-là, vous avez du mal à fixer le regard sur la HSPU, on en parlait, vous avez du mal par exemple sur le deadlift, tu sais, les gens avec la tête en hyper extension. L'autre fois, j'ai vu que tu avais mis un réel sur ça, tu vois. Mais en fait, ça se trouve, ça peut être intéressant. Et derrière, comment le tester? Bah, c'est aller voir un pro. Il y en a pas mal en France. Alors toi, tu es à La Réunion, mais je pense que beaucoup de gens qui te suivent sont en France. Vous m'écrivez, il y a plein d'endroits où il y a des gens qui sont compétents parce qu'il y a plein de gens qui cherchent en France et c'est ces gens-là qu'il faut aller voir. Et voilà, faut jeter un œil parce qu'il y a toujours des solutions aux problèmes, quoi.
Donc, si je résume bien, les indices, ça pourrait être. On reprend l'exemple du soulevé de terre avec la tête qui hyperextension. Donc, c'est que vous avez la tête qui regarde soit le plafond, soit vraiment haut, et qui n'est pas alignée avec la colonne ou autre. Ah.
Si tu lui as donné la consigne de ne pas
Oui,
regarder. Moi,
voilà.
c'est ça qui
Ah,
m'intéresse.
ok.
C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, ils vont le faire naturellement, c'est OK. Et quand derrière, tu vas leur dire, bah, mets la tête en bas, ils vont le faire, c'est pas un problème. Un réflexe, de toute façon, tu ne peux pas. C'est-à-dire que si c'est réflexe, exemple, mettre le doigt sur la plaque de cuisson. Tu vas mettre le doigt sur la plaque de cuisson, tu vas automatiquement enlever. Si on te dit, garde le doigt, tu vas être capable de le tenir 2 secondes, mais au bout d'un moment, tu vas enlever. Bah, ça va être pareil un peu pour le corps, je schématise. Donc si la personne, tu lui dis, regarde en bas, surtout, tu dis surtout ne regarde pas en haut, elle fait une rep et la deuxième, elle ressort, tu lui as dit, elle le sait, donc là, il y a peut-être à creuser, là, ça serait intéressant.
Ok, donc ça va être vraiment dans un cas pareil. Et c'est intéressant parce que certaines
Le
personnes.
hook grip,
Ouais.
pareil, le hook grip, j'ai vu plein de vidéos, là, il n'y a pas longtemps, qui disaient que le hook grip, c'était nécessaire. Et pourquoi il y a des gens qui ne le font pas? Bah, parce qu'il y a des gens qui ont un réflexe de préhension de la main qui fait que se mettre comme ça, c'est instable. Et bah, tu vas leur demander de faire ça avec une barre au milieu, c'est pas possible.
Le haut grip que tout le monde voit, c'est quand tu mets le pouce sur la barre et les doigts par-dessus le pouce. C'est une prise qu'on utilise en haltéro et en force attelée aussi de temps en temps. Ça vient écraser le pouce contre tes doigts et du coup, on a moins besoin de serrer la barre. Mais certaines personnes n'y arrivent pas du tout.
Donc ça, moi, par exemple, je sais que j'ai eu des résultats pas mal avec le réflexe de préhension, et tu voyais que souvent les gens, quand tu leur chatouillais la main, avec exactement le même test que pour le Babinski, mais avec le stylo, tu viens chatouiller la main, ils avaient des réactions un petit peu excessives, tu vois. Donc forcément, ils vont pas se rajouter une pression. Donc voilà, ça c'est tous ces petits trucs, et c'est pour ça que moi j'aime bien travailler avec des professionnels du terrain. Alors, sans dire que je ne suis pas un professionnel du terrain, mais moi je vois peu d'athlètes. J'ai des clients, je prends 1 heure avec chaque client. J'en fais de moins en moins parce que maintenant je forme un petit peu. Mais par contre, les gens qui sont sur le terrain, en fait, vous prenez un réflexe, vous regardez les effets que ça peut avoir, vous le faites pendant 1 semaine avec tous vos athlètes et vous faites des liens. Et moi, on parlait de la science tout à l'heure. Pour moi, la seule science qui m'importe, c'est celle-là. C'est, je te propose un test, tu vois avec tes athlètes, tu as 100 personnes. Si pour un comportement X, tu as 98 athlètes qui ont ce réflexe, tu peux quand même fortement penser que c'est lié. Si derrière, tu corriges ce réflexe et que tu n'as plus que 10 athlètes qui ont le comportement X après, tu peux quand même te dire que ça a impacté. Je pense qu'il faut aussi arrêter de vouloir être, tu sais, des nazis de la science et de se dire, j'ai quelque chose qui marche avec 80% des gens. Ça ne veut pas dire en plus que ça ne va pas marcher avec les 10% après. Je pense que c'est quand même bien de l'utiliser.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Ça résume très bien la bonne pensée, je pense, actuelle pour. Mais ça après, c'est un peu pour tous les secteurs sur la science et les fonctionnements des outils qu'on a à disposition, dont les réflexes et la posturo, hypnose, comme tu dis, etc.
Après, et ça c'est un peu l'erratum à la fin du truc, c'est vraiment, si vous voulez apprendre, il y a plein d'endroits où vous pourrez apprendre les réflexes. Moi, j'ai fait 5 formations sur les réflexes, j'en ferai encore plein, je vais aller voir plein d'experts dans le monde pour ça. Il ne faut jamais considérer que C'est vraiment un truc fixe et c'est pas parce que vous avez entendu ce podcast sur les réflexes que vous allez devenir un pro du réflexe. Parce que, évidemment, je pense que personne n'aurait pensé ça, mais c'est important de le préciser parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais si t'as ça, c'est sûrement avec ce réflexe. Il peut y avoir mille raisons, les réflexes en sont une, et c'est vraiment important de rester à sa place et d'admettre bah, que vous ne pouvez ne pas savoir. Moi, ça m'est arrivé des fois de réorienter vers quelqu'un d'autre, mais tu continues d'accompagner la personne, toi, t'es coach. Bah, moi, je sais que maintenant, j'ai créé mon réseau. Je bosse avec des ostéos, je bosse avec des kinés, je bosse avec des orthoptistes, je bosse avec des psychologues, je bosse avec des hypnothérapeutes, je bosse avec des coachs de CrossFit, je bosse avec des profs de pilates, de yoga. Et chacun a quelque chose à apporter. Je trouve que le réflexe, c'est le lien avec tout et c'est pour ça que moi, j'essaye de partager ça. Ce n'est pas ma vision qui est la bonne, c'est une que j'essaye d'amener. Ça, c'est quand même important de le préciser pour ne pas se dire, j'ai écouté ce podcast, il faut tout que je lâche pour les réflexes. C'est super les réflexes. Mais le sport, c'est important, l'hydratation, c'est important, l'alimentation, c'est important, le sommeil, c'est important, le côté émotionnel, c'est important, le côté articulaire, c'est important, le côté mobilité, c'est important, le côté force, c'est vraiment un continuum.
C'est une très belle phrase pour finir. Est-ce que tu as autre chose à rajouter
Pour tous
ou...
ceux que ça intéresse, à Lyon, avec notamment Sébastien Billard sur le CrossFit, on fait un séminaire sur 2 jours pour initier justement aux réflexes archaïques et aux impacts du système nerveux sur la performance et sur le coaching en CrossFit. Donc c'est à CrossFit Villeurbanne le 18 et 19 juin. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Pour ceux qui viennent de la part de Vlad Méthode, on va vous faire un petit prix sympa.
Du coup, justement, comment on peut te contacter pour ça ou pour autre question?
Alors sur Instagram c'est Feblitos Pro, donc comme quelqu'un qui est pas très costaud, qui est faible en espagnol, donc Feblitos Pro ou Lucas Bourguignon sur Facebook, etc. Assez facile à trouver normalement.
J'ajouterai de toute façon les liens dans la description pour retrouver facilement.